Nous sommes le lundi 27 février 2012 et vous écoutez le 23e épisode de Proxy Jeux. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de l'actualité du jeu de société.
Et merci à Ludic Bazar de nous aider à réaliser ce podcast. LudicBazar.com, c'est le choix, les prix, la qualité et plus de 14 000 références en stock. Du discount, du neuf et de l'occasion.
Salut Olivier.
Salut Jérémy, salut les joueurs, salut les joueuses. Tu me prends de court.
Oui, t'as vu ça. On change pareil. Et c'est fini.
C'est ça. On parle un petit peu du jardin et du Milbourne ce soir.
Oh, juste un petit peu alors. Hein.
Bah oui, bah, l'Oscar, tout ça.
L'Oscar du Milbourne,
bah, c'est pas ça, hein. C'est Jean du Jardin, c'est pas.
Ah,
rien à voir, peut-être.
Non, ça n'a rien à voir.
Bon, d'accord, ok. Bon, ça c'est fait.
Superbe. On commence bien.
Alors, bah, écoutez, merci de nous supporter.
Voilà, c'est ça. On démarre bien. On ne tourne encore qu'au café ce soir, mais.
Merci pour vos commentaires sur iTunes. On vous avait parlé il y a une quinzaine de jours. Oui.
Attention.
Bon, attention.
Maintenant, quand on parle des commentaires sur iTunes, c'est une opération.
Sauvons le monde.
Sauvons le monde avec Proxy Jeux. On vous rappelle, pour sauver le monde, pour éviter la fin du monde en fin d'année 2012, il faut qu'on ait 100 notes sur iTunes. Donc on compte sur vous.
Et si vous voulez plus qu'on fasse de blagues pourries, vous pouvez nous mettre un commentaire pour dire on vous aime bien, mais arrêtez les blagues pourries.
Voilà, mais mettez pas en dessous de 5 étoiles quand même.
Merci à Dylan Maillard, qui aime notre ton léger, les écrans, les événements. Et puis ben, il nous suit sur Twitter, donc on va rappeler le Twitter qui est @proxyjeux, proxyjeux tout attaché. Merci à Kraken75 qui dit proxyjeux, c'est bon, mangez-en. Et puis un grand merci à Dédé Schutz et surtout à Jocelyn pour m'avoir donné un petit peu de matière pour une nouvelle rubrique qui va s'appeler le jeu de société expliqué à ma grand-mère. Vous verrez ça un petit peu plus tard, ça va prendre un petit peu de temps parce que il faut que je monte, il faut que je prépare ça. Donc une séquence un petit peu en bref.
On n'oublie pas le concours, Olivier ?
Non, on n'oublie pas parce que c'est un très beau concours.
Ouais, c'est un beau concours. Donc c'est pour vous faire gagner 2 exemplaires de Sherlock Holmes Détective Conseil.
Un très beau jeu.
Donc excellent jeu, coopératif, d'enquête, etc. J'en ai fait un ce week-end et c'était vraiment toujours aussi agréable. Alors le concours, il est simple. On l'a lancé déjà il y a une semaine. Donc quand vous nous écouterez, ça fera sans doute 2 semaines. Il vous restera donc 2 semaines pour y participer. Vous avez jusqu'au 18 mars minuit. Comment ça se présente? C'est une petite enquête sous forme de photo. Enfin, c'est pas une anxi.
Il y a une mise en situation.
Une mise en situation, voilà. Pour vraiment vous plonger dans l'ambiance. C'est Sherlock Holmes qui vous pose
quelques questions.
C'est fait par les chasseurs urbains qu'on avait interviewé l'année dernière. On vous renvoie un dossier de... qui est vieux, qui date de la saison 1, mais ouais. Vous n'aurez pas de mal pour le retrouver.
On les numérote pas, donc c'est un peu compliqué. Donc
voilà,
voyez,
un dossier.
Les chasseurs urbains, vous tapez ça sur notre blog et vous arriverez dessus.
Voilà, sur iTunes, vous le retrouvez également dans la liste des épisodes. Et voilà, c'est en partenariat avec Istari. Alors, il faut savoir qu'on a déjà eu quelques réponses. Je suis...
agréablement surpris.
Ouais, ouais. Très franchement, le niveau des réponses qu'on a reçues, c'est déjà très bon. C'est même meilleur, en fait, que notre concours Rallyman. Là, je me dis, c'est bizarre quand même. Ouais. Quand on fait l'effort de chercher, on arrive à trouver... Donc, c'est un concours, là, parce que pour repréciser, vous avez 3 questions, mais vous n'êtes pas obligé de répondre à tout. Si quelqu'un arrive à trouver toutes les bonnes réponses, bah forcément c'est lui qui l'emporte, mais sinon...
enfin, c'est lui qui l'emporte.
S'il y a plusieurs, oui, on les partage. Mais,
on les partagera, certainement qu'on les partagera. Le concours a été construit pour que tout le monde puisse y répondre. C'est-à-dire que même si vous vous sentez un petit peu moyen sur les énigmes, alors moi j'aurais été un petit peu dans ce cas-là, allez-y quand même, essayez de répondre au moins aux critères, parce que c'est plutôt assez facile. Et puis après, c'est un engrenage. Quand vous aurez mis le doigt dedans,
voilà. Mais si, il y en a qui avaient déjà répondu en mettant pas forcément toutes les réponses. Ils ont raison.
Et bah, tu parlais de jeux coopératifs.
Oui, c'était pas par hasard.
N'est-ce pas? Alors, petit pont. D'un jeu coopératif, un très joli dossier. Enfin, moi, je l'ai réécouté plusieurs fois parce que je l'ai monté. Donc, j'ai beaucoup apprécié nous écouter.
Ah, bah, c'est bien.
C'est l'autopromo. Mise en ligne le 27 février. Un petit aperçu de l'ensemble des jeux coopératifs.
Dans lesquels nous ne parlons pas, comme Détective Conseil.
Non.
On est comme ça.
Non, mais on en a beaucoup parlé.
Non, mais on balaye de tout. On balaye des jeux pour enfants. On balaye un petit historique de tous ces jeux. C'est 1h20 de plaisir.
Hein, voilà.
Et sans doute d'envie d'achat, mais ça ne regarde pas.
Et au programme de ce numéro 23 des actualités Proxy Jeux, on va vous parler de Horreur à Arkham Championship, la troisième édition.
D'Open de France de Mémoire 44.
De Mage Knight en français ainsi que Antique en français.
De cartes pour le jeu Escape from the Alien in Outer Space.
Excellent jeu. On va vous parler aussi de Vanuatu et de Massilia, qui est le prochain jeu de Alain Epron qu'il essaye de faire éditer en Kickstarter, enfin sur Indiegogo et sur Wooloulé.com.
Et puis quelques petites goodies en bois pour embellir vos jeux, vous qui êtes fan de jeux et qui ne reculez devant rien pour rendre toujours plus beaux vos jeux.
Sous les projecteurs cette semaine, Tournée et Takenoko, deux excellents jeux qu'on a beaucoup aimés.
Et puis une brassée d'événements qui arrive mars, le retour du printemps, et plein d'événements, plein de salons, partout où vous soyez en France, vous en aurez un près de chez vous.
Et puis côté écran, beaucoup de choses, beaucoup de choses, principalement sur iOS, iPad, iPhone, on a du Timeline, on a du Kingdom Builders, Blue Lion, Haru Ishiban, Take It Easy, Ticket to Ride Pocket. Edge Entertainment organise la troisième ligue nationale Horreur à Arkham. Alors qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une campagne qui est composée d'une dizaine de scénarios. Les deux premiers ne nécessitent que le jeu de base Horreur Arkham. Ensuite, on ajoute les extensions. Et par équipe de 2 à 8 investigateurs, on essaye d'enchaîner les scénarios. Chaque année, puisque c'est la troisième année, il y a des règles particulières. Et le 10 septembre 2012, il y aura des résultats de chacun. Chacune des équipes qui aura participé à cet événement. Donc si vous avez envie de vous lancer sur cette campagne d'Horreur Arkham, que vous ayez des extensions ou pas, vous pouvez commencer. On mettra tout sur le site internet, on vous mettra tous les raccourcis vers les premiers scénarios et vers les règles additionnelles. Et puis le premier scénario qui s'appelle Fané en silence est en ligne et vous pouvez le télécharger. Et vous pouvez y jouer, même si vous n'avez pas envie de faire tous les scénarios, je pense que c'est une façon de renouveler un peu le genre, et puis de jouer différemment, parce qu'en général, Horror Arkham, c'est un one-shot. Et là, entre les règles additionnelles et le fait que ça se joue vraiment avec, en gardant les mêmes objets, en perdant complètement les objets, il y a des objets qui quittent le jeu en fait, d'un scénario à l'autre, je pense que ça peut mettre beaucoup d'intérêt dans une campagne. Tout le monde n'a pas toutes les extensions, mais au moins les deux premiers scénarios peuvent se faire complètement avec la boîte de base.
Et pendant qu'on en est avec les championnats, j'en profite aussi, c'est un petit peu de l'événement également. Mais
profites-en.
C'est ça, j'en profite. C'est pour le quatrième Open de Mémoire 44, quatrième Open de France, pardon, de Mémoire 44, qui aura lieu à Issy-les-Moulineaux les 17 et 18 mars, donc pas longtemps après que vous écoutiez ce podcast. Alors pour une fois, ça se passe, c'est sur Issy-les-Moulineaux, on peut dire que c'est sur Paris, ce qui devrait permettre à pas mal de joueurs de rallier l'événement. Ça se déroule sur tout le week-end, avec une finale prévue le 18, le dimanche, à partir de 14h. On vous mettra tout ce qu'il faut, le formulaire, etc., toutes les informations pour vous inscrire si vous voulez y aller. Je pense que c'est si vous jouez un petit peu à Mémoire 44, c'est une occasion d'aller se frotter à des nouveaux joueurs, à des nouvelles façons de jouer. Il y a bien sûr plusieurs catégories, hein. Même si vous débutez, il y a une catégorie pour vous, il n'y a pas de problème. Et puis, il faut savoir également qu'il y aura Julien Delval, l'illustrateur, qui sera présent. Donc, vous pouvez venir avec votre boîte à la faire dédicacer. Donc pour rappel, le 4e Open de France Mémoire 44, c'est les 17 et 18 mars au Musée français de la carte à jouer à Issy-les-Moulineaux.
Mage Knights, on vous en a parlé dans un précédent numéro, le Vladaj Vatil de SN 2011. Comme on avait dit, un world crawl.
Oui, c'est pas un dungeon crawl parce qu'on explore un monde, donc c'est un world crawl. Mais enfin, c'est un des jeux de Vatil.
C'est le gros. Le gros Vatil de ASN l'année dernière.
Un gros truc. Ouais.
Et donc, oui, c'est un gros truc parce que ça dure longtemps. C'est-à-dire qu'il faut prendre son temps pour ça. Et puis, un des problèmes, c'est qu'il n'est disponible que en version anglaise. Mais les gentils internautes ont mis les cartes et tout le matériel francisé sur le net. Et on vous mettra un petit lien pour aller chercher de quoi franciser votre Mage Knight. Donc, si vous avez envie de jouer à ce jeu, mais que la langue de Pamela Anderson vous rebute. C'est bizarre cette phrase. Vous pouvez aller la chercher, vous verrez sur notre site. Et puis, on vous a parlé à plusieurs reprises de Escape from the Aliens in Outer Space. Ce jeu, qui est un jeu de Cranio Création, sorti en 2010, je dirais,
oui,
Eisen, est un jeu un peu particulier où certains joueurs vont jouer les aliens, certains joueurs vont jouer les humains.
Totalement aléatoire.
Comment ça, totalement aléatoire? Il n'y a pas de dés dans
non, mais
Alien.
On ne sait pas si tu es un humain ou un alien en début de partie.
C'est ça. Donc les rôles sont face cachée et donnée aléatoirement. L'idée, c'est que les humains vont devoir s'échapper ce qu'on pense être une station spatiale. Et bah, les aliens n'ont qu'un seul but, c'est de les dévorer. C'est un jeu qui est extraordinaire. C'est-à-dire que ça n'a l'air de rien. On y joue avec un crayon et puis des cartes en papier. Une sorte de touché-coulé, mais beaucoup plus malin. Et dans la boîte de base, il y a 3 ou 4 cartes.
Oui. 4, ouais, ouais. 4 si vous avez acheté la version collector. 3 sinon.
Voilà. La blanche, c'est la collector. Si vous avez celle-là, c'est 4. Et puis pour l'autre, 3. Mais Cranio Création met en ligne des cartes supplémentaires. Et puis on l'avait un petit peu passé vite. Au printemps dernier, il y a eu 6 Spring Maps. Donc des petites maps comme Askeza, des très petites cartes comme Socrates, et alors Socrates c'est pas très très gros, et on a encore plus petit, on a Dilemna qui est constitué de seulement 13 hexagones.
Ouhou.
Et 13 hexagones
avec des aliens qui font de gaz,
c'est ça, ça va super vite. Il y a une autre carte qui s'appelle Garibaldi et qui n'est pas très grande, et il y a des cartes assez classiques. Enfin, par rapport aux autres, tu vois, les micro-cartes et les petites cartes, une biscornue qui s'appelle Cavour et une en sorte de couloir qui s'appelle Baléna. Donc ça, c'est les 6 Spring Maps, c'est les cartes du printemps. Et là, de tout de suite, il est sorti encore 6 nouvelles cartes, 4 qui ont été proposées par des joueurs et qui ont été adoptées par l'éditeur, et 2 qui ont été créées par les auteurs du jeu. On a Sound of Silence, qui est une assez grande carte, assez dissymétrique, avec de l'espace en haut et des couloirs assez étroits en bas. On a Sinistra, qui est une sorte de course où les humains ont un peu d'avance. Alors ça, c'est assez, assez incroyable. Morgelland, qui est encore une petite carte. Machiavelli, qui est une grande carte avec plein de couloirs. Et Frenzy, à l'image de Dilemma, qui comporte une quinzaine d'hexagones. Donc, ah, puis il y en a une autre. La dernière, c'est Hangard, et qui est assez petite. Donc le jeu a été présenté, on vous a présenté le jeu dans l'épisode numéro 7 de Proxy Jeux, je vous renvoie vers cet épisode là. Escape from the Aliens in Outer Space, ça se trouve un petit peu partout, dans toutes les bonnes boutiques. Donc n'hésitez pas, c'est un jeu assez atypique, et en plus, vous n'aurez pas 3, vous n'aurez pas 9, vous aurez 15 cartes à vous mettre sous la dent si vous achetez ce jeu.
J'ai relevé une petite news sympathique à propos d'un éditeur que j'aime bien, qui est le Scorpion Masqué. C'est pas un éditeur très connu, c'est un éditeur québécois qui a été distribué en France jusqu'à présent par Ferti, donc déjà une bonne distribution. Mais ils viennent, on a appris là qu'ils venaient de signer chez Yellow maintenant pour la distribution, donc ils devraient faciliter encore la disponibilité de leurs jeux dans vos boutiques. Alors ils ont fait des petits jeux pas forcément connus, mais moi j'aime bien Grimp par exemple, qui est un jeu où on reproduit l'escalade
avec les doigts.
Donc voilà, il y a Miss Poutine qui est un jeu d'ambiance où tout le monde
veut faire des.
Tout le monde crie.
Remplir des contrats avec des hamburgers et de la poutine.
Oui, c'est ça. Donc ça crie pas mal, un peu à la Ligretto Football.
Voilà, toi qui ne sais pas ce que c'est que la poutine, et ben.
La poutine, c'est un merveilleux plat québécois.
Wikipédia est ton ami.
Ouais. Bon, c'est un merveilleux plat québécois avec des frites, du fromage pas terrible et de la sauce. Voilà, c'est merveilleux. Il faut aller au Québec rien que pour la poutine. Bref, non, le Scorpion Masqué a fait plein de jeux comme ça, un petit peu atypique, un petit peu en dehors du paysage ludique traditionnel. Et moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle qu'ils soient mieux distribués.
Vous ne parlerez pas du JCA du Seigneur des Anneaux. Et je voulais vous dire que j'allais recommencer un cycle, non pas avec les elfes, les trolls et les nains, mais avec les Sith et les Jedi. Et en fait, non, puisque le JCE Star Wars qui avait été annoncé en août dernier est toujours en développement. C'est-à-dire que on comptait sur sa sortie au printemps. Et en fait, il a été annoncé, mais pour la fin d'année 2012, voire le début de l'année 2013.
Ce sera en anglais ?
Ce sera, j'espère, une sortie internationale à l'image de ce qui a été fait pour le JCE du Seigneur des Anneaux.
Tu connais l'auteur ?
C'est toujours Ned French, mais cette fois c'est aussi avec Corey Konikcha. Excuse-moi si j'écorche un peu son nom. Corey Konikcha.
Non, mais on le connaît, c'est un habitué chez FFG.
Ouais, tout à fait. C'est l'auteur phare de.
Et ça reprendra à quelle époque de Star Wars, tu sais, ou on sait pas plus que ça pour l'instant?
Bah écoute, ils ont fait comme pour le JCE du Silence des Anneaux, ils ont dû prendre une période assez neutre en fait, où tu vas retrouver des gens que tu connais déjà, où ils vont pouvoir introduire des personnages qu'on connaît. Puis de toute façon, Yoda, il a 900 ans, donc tu peux le mettre quand tu veux, quoi. Tu vois, tu peux l'utiliser un peu avant.
Pendant longtemps, c'est la République, donc c'est pas grave.
Non, mais là, il y a la rébellion quand même. Il y a de, c'est ah, la force déjà... de la rébellion qui se bat déjà contre l'Empire.
Très bien.
Donc voilà, donc j'espère que ça va sortir avant la fin de l'année, que ça aura pas trop de retard. Quoi qu'il en soit, en parlant de FFG, bah, s'il a du retard, je me replierai sur Rex. Et puis voilà.
Sur Rex?
Oui, c'est Rex.
Avec des chiens, des dinosaures?
Non, c'est un lion en fait sur la boîte. Non, Rex, le nouveau Dune.
Ah, c'est Dune.
Eh oui. Donc voilà, Star Wars, le jeu de cartes évolutif, qui est repoussé fin 2012.
Vous en avez parlé lors de la version anglaise, mais maintenant ça va bientôt arriver dans nos boutiques en français. C'est l'extension pour le jeu Civilization, Gloire et Fortune. Alors, Gloire et Fortune, c'est la première extension, et c'est comme souvent pour une première extension, c'est vraiment un moyen d'enrichir le jeu si vous appréciez le jeu. Ça vous permet notamment d'introduire un cinquième joueur,
ouais.
Ce qui déjà n'est pas mal.
Ouais, c'est et souvent plus... le cas.
De quoi ?
Le cinquième joueur.
Le cinquième joueur, voilà. Hmm.
Moi, excuse-moi, je pensais plus à débugger qu'à enrichir, mais vas-y, excuse-moi.
C'est pas une application informatique.
Ouais.
Donc, non, on débug pas, on enrichit.
Non, ouais, en fait, le problème, c'est que. Enfin, c'est pas un problème, mais la première extension pour le Trône de Fer, c'était un petit peu plus du débugage et un rééquilibrage du jeu que vraiment. Mais bon, passons, je ne présage rien sur
qu'est-ce que t'es mauvais. De toute façon, on s'en fout maintenant, voilà. Parce que Trône de Fer, il y a une deuxième édition.
Voilà, tout à fait. Bah, voilà. Ça, c'est la version débuguée, quoi.
Voilà, avec quasiment tout ce qui est dans la première extension. Bon, bref. Non, mais là, on a complètement dérivé. Qu'est-ce qu'elle va vous donner, cette extension? Et ben, donc, plein d'améliorations pour permettre de creuser le jeu si vous aimez bien. Donc, notamment des nouveaux personnages. Alors, Marco Polo, Hannibal. Ça va vous amener aussi des reliques. Voilà, également une possibilité de transformer, d'améliorer encore les capitales en métropole, de pouvoir protéger les cités avec des fortifications, ou bien de commencer avec des caravanes. Voilà. Tout plein d'autres bonus, à mon avis.
Bon, c'est pour les aficionados de Civilization, donc.
Voilà.
Ceux qui ont fait quelques parties, qui veulent diversifier un petit peu leur jeu.
Un jeu que j'ai pas encore osé me lancer dedans, en fait, depuis sa nouvelle version. De peur de...
D'être déçu ?
Non, j'ai peur que c'est du gros jeu avec beaucoup de règles, enfin un jeu à l'américaine, quoi, qui dure en plus 3-4 heures, et au final, à la fin, t'as fini la partie, tu fais, j'ai passé 4 heures sur ça. Alors j'aurais pu jouer à Indonesia, tu vois, je veux dire, t'as... Tu peux vraiment faire du vrai jeu, quoi, en 4 heures. Non, je... je ne suis pas si négatif.
Et voilà, savez-vous, donc, c'était la critique de Civilization par Jérémy. Bon, bah, on va peut-être s'arrêter pour cette brève.
Ouais, on va s'arrêter là, je pense, c'est beaucoup mieux.
On parle souvent dans Proxy Jeux de Kickstarters. Le Kickstarter, c'est quand même quelque chose d'assez remarquable. C'est du crowdsourcing. C'est-à-dire que c'est un site qui demande aux internautes leur participation pour la réalisation d'un projet. Et Alain Éperon a repris le principe. Pour son jeu Vanuatu, il ne passe pas par Kickstarter, qui est une plateforme comme une autre. Il passe par Indiegogo pour rééditer Vanuatu. Donc Vanuatu s'est sorti en Essen l'année dernière.
Ouais. En petit exemplaire, parce que les
petit tirage.
Petit moyen. Ouais,
un petit tirage. Et là, il demande 5 000 $ pour pouvoir rééditer, faire une deuxième édition de son jeu. S'il arrive à lever 10 000 $ en plus de la deuxième édition, il va faire la première extension, The Rising Waters.
Les eaux qui montent.
Ah, c'est un petit peu une île interdite à l'envers.
Et moi, j'aime bien toujours relever un petit peu les montants qui sont relevés par cette forme d'édition. Donc, à l'heure où nous enregistrons, il a déjà levé 7 370 $. Donc, les 5 000 $ sont déjà atteints. Donc, attention, c'est des promesses de dons. Hein. Mais donc, normalement, c'est bon, la deuxième édition pourra être lancée. Il reste encore 33 jours. Je pense qu'on atteindra les 10 000 $ sans trop de difficultés.
où vous pouvez donner 10 $, 15 $. Donc là, vous aurez un peu des remerciements et puis éventuellement une carte bonus. Et puis pour 55 $, vous pourrez avoir une boîte.
Oui, c'est ça. Il faut donner quand même 55 $. Si vous n'avez pas le jeu et que vous le voulez, c'est quand même 55 $.
Ouais, le jeu était assez cher à la base.
C'est une quarantaine d'euros, je crois.
Oui, ben 55 $, 40 €, c'est plutôt, plutôt cohérent.
C'est normal, ouais.
Et puis bon, il y a plein de choses après, un t-shirt, du collector, plein de choses. Donc de toute façon, quand tu fais un truc comme ça, c'est à la fois pour avoir le jeu, mais aussi pour aider l'éditeur. Enfin, c'est une forme d'édition participative, et puis ça permet aux gens de se lancer, donc c'est très bien. Mais alors, Alain Épron, il en reste pas là, c'est-à-dire que il met Vanuatu sur Indiegogo, et puis sur Ulule, il met Massilia.
Il met pas tous ses sous dans le même, sous ses œufs, pardon, dans le même panier.
C'est ça. Massilia, l'objectif c'est 6 000 €, c'est un autre jeu, c'est un jeu négociation. Et puis donc bah là, il a 23% financé, 1 395 €, 24 soutiens. Donc,
sur 6 000 qu'il espère obtenir.
Ouais, de toute façon, il y a encore 64 jours. Donc,
voilà.
On peut penser que ça marchera. Je pense que ça, il n'y aura pas de problème. Vous verrez Massilia édité cette année en 2012.
C'est aussi produit par, c'est aussi prévu en fait par Croque-Nidouille, donc le même éditeur. Et en fait, pourquoi est-ce que celui-là est sur Ulule? Parce qu'il sera que en version française, contrairement à Vanuatu, où il prévoit de le distribuer aussi un peu plus à l'international.
C'est ça, c'est-à-dire que les fonds levés sur Indiegogo permettront à la fois de produire le jeu, mais aussi de le distribuer. Il est prévoyant et il a eu une première expérience assez intéressante, je pense, avec son premier jeu. Et il sait qu'il faut quand même qu'il puisse... Enfin, il ne va pas faire la tournée des boutiques avec sa camionnette. Donc, voilà. Donc, si vous êtes intéressé par Vanuatu, allez sur indiegogo.com/Vanuatu. Et si vous avez envie de voir éditer Massilia, vous allez sur ulule.com/Massilia.
Je continue avec c'est du fil rouge sur le long terme, celui-là. Enfin, un site qu'on aime bien, dont on a déjà parlé l'année dernière, c'est...
Avant Noël.
Ouais, c'était pour Noël. Voilà, Olivier, il voulait un meuble au pied de son sapin.
Mais je veux toujours
une belle table de jeu. Ouais.
Je veux toujours le meuble.
Faites par Geek Chic, voilà. Mais c'est des tables qui valent quelques milliers de dollars.
C'est ça.
Et donc là, bon, si ça vous paraît un petit peu trop cher de mettre 3 ou 5 000 dollars dans une table de jeu, ce qui m'étonne, hein, quand on aime, on ne compte pas, c'est une passion. Mais bref, si vous voulez, vous pouvez plutôt vous acheter une petite tour à dés pour 85 $, ce qui est déjà beaucoup plus honnête, quoi. Hein. Ou pour ranger vos decks de cartes, ça vaut entre 25 et 35 $. Il faut quand même savoir que c'est du beau bois et c'est quand même du beau travail. En tout cas, sur les photos, ça fait envie. Hein. C'est une petite société américaine basée à Seattle qui propose ça. Et puis sinon, vous avez, je pense que c'est plus pour faire du GN, ils proposent des armes
en bois.
Mmh. Moi, j'aime beaucoup leur glaive qui fait vraiment penser à...
La Blazing Sword.
C'est le glaive, non, c'est vraiment le glaive romain, qui fait un petit peu penser à Zelda.
Ah, ouais, tout à fait.
La petite épée du Link au début de l'aventure.
Il y a des coutelas, il y a des haches, il y a... Tout à fait.
Donc des très belles choses en dollars, j'ose imaginer que... Les frais de port sont à la hauteur du prix du produit, puisque quand on se fait envoyer une boîte en bois, ça doit être un petit peu lourd.
Alors, il y a autre chose dont tu n'as pas parlé.
Ah.
Ils appellent ça Curiosities. C'est des moustaches monocles.
Excellent.
Voilà.
Ah, puis en plus, le style, vraiment, début 1900.
C'est ça.
Un effole.
Moustache.
C'est très bien.
C'est 18,37 $ si vous avez envie de...
Oui, mais...
Voilà.
Il reste les frais de port, quoi.
Donc c'est geek chic, c'est bien. Si vous avez un cadeau à faire à un geek, et ben pensez geek chic.
Et si vous voulez retrouver la news où on parle de tous ces meubles de geek chic, c'était dans l'épisode numéro 13.
Et si comme moi vous êtes fan de séries télé, si vous avez un penchant pour The Big Bang Theory, Sheldon, tout ça. Eh bien, nous aurons la chance bientôt d'avoir The Big Bang Theory, le party game. Voilà, donc ça sort en avril 2012. C'est Cryptozoic Entertainment qui va éditer ça. Et je ne pense pas que ça arrive un jour en France. Donc peut-être un futur import.
C'est pas une série traduite en français, ça?
Si.
C'est un jeu pour... Tu penses que le jeu de société va être vraiment pour geek?
Eh ben, c'est très geek, en fait, Big Bang Theory. Alors, ils jouent à Colombe Catane. D'ailleurs, ils se foutent de la gueule de Sheldon pendant cet épisode. Il joue à Talisman, il joue à énormément de jeux en fait. C'est très dans notre culture.
D'accord. Moi ouais. Je connais pas. Je connais IT Crowd que j'adore, qui est une série vraiment geek aussi, mais anglaise.
Ouais, mais là non.
Et ils ont la pile de jeux de société et ouais. Il y a un épisode dédié aux jeux de rôle, mais il y a pas.
Voilà. Donc peut-être un jour la présentation sur Proxy Jeux de The Big Bang Theory, The Party Game. Et Jérémy, je pense que tu as très envie de nous parler de tournée.
Ouais.
Parce que tu m'en as parlé dans la semaine et tu étais très 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 enthousiaste en fait sur ce jeu.
Eh bah ouais, alors déjà pour rappel, tournée, donc c'est un jeu par trois personnes, les auteurs qui ont fait trois l'année dernière, qui avaient déjà pas mal fait parler de lui.
C'est pas encore du jardin ?
Ouais, il y a encore un du jardin, ouais. Mais c'est toujours pas de Millboard.
C'est l'année du jardin.
C'est Sébastien du jardin. Bah non, ils ont pas eu Cannes. Donc Sébastien du jardin, Xavier Georges et Alain Orban. Et donc c'est dans leur nouvelle petite maison d'édition, la Pearl Games, qui s'est sortie à l'occasion de 3. Alors, Tournai, il a eu vachement buzzé à Essen. Il a fini deuxième, je crois, du classement Fairplay, c'est-à-dire des jeux qui buzzent bien. Mais c'était impossible de le tester. Enfin, il y avait deux tables. C'était un petit peu difficile. Enfin.
Puis si, c'était quand on veut on peut hein, mais
oui
bon.
Quand on veut on peut, mais en plus c'est le genre de jeu on se dit on l'aura tout le temps de toute façon, tout loisir après le salon de le tester, enfin il sera facilement trouvable dans des boutiques françaises etc, donc on n'achète pas tout de suite. Et après
on se dit mais pourquoi j'ai pas acheté sur place.
Bah pour 3 c'est ce que j'ai dit, pour 3 c'est un peu ce qui s'est passé. J'ai réussi à l'avoir qu'à partir du problème du troisième seulement retirage, pour que finalement j'ai été déçu par le jeu et je l'ai revendu. Mais bon, ça c'est les aléas, tu peux pas savoir.
T'as un mauvais goût en fait.
C'est ça, je pense que j'ai peut-être. Mauvais goût, peut-être. Par contre non, justement, alors que tournait, bah là je pense qu'ils avaient développé tout de suite plus gros tirage. Tu me sens pas comment le jeu soit tombé en rupture.
Si.
Si.
Bah, les 800
bah
et
ça, ils ont
900...
vendu 750 copies. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais, mais ça c'est parce qu'ils ont plus place dans les camionnettes. Mais les autres partent vers les boutiques.
Bah, il faudrait peut-être la prochaine fois partir avec une camionnette plus grosse.
Ouais. Hein. Bon, 750, c'est pas mal vendu en 3 jours, ouais, c'était pas mal. Et en fait, donc j'ai acheté le jeu, je sais plus, fin 2000, je crois, mais je lui ai donné sa chance que depuis 2 semaines. Découvert parce que des amis en fait ont dit ah oh, tu l'as, j'aimerais bien l'essayer, tout ça, donc on s'est lancé dedans. Et ben en fait c'est génial. C'est un excellent jeu de cartes. Celui-ci, je ne le revendrai pas, contrairement à 3.
Alors c'est ça, quand j'ai dit que Jérémy avait fait preuve d'un certain enthousiasme, c'est peu de le dire.
Ouais, ouais, c'est très très bien. Et ben, alors, pour parler franchement, Olympus a gagné le prix du jury, mais Tournai aurait aussi bien pu le gagner, je pense. Les deux jeux sont vraiment différents, mais les deux jeux doivent être dans votre ludothèque si vous jouez fréquemment et que vous aimez, et que vous cherchez vraiment de toute façon les vrais jeux, quoi. Si vous devez avoir 10 jeux par an,
des vrais jeux.
Non, mais des jeux que tu vas garder.
Tu veux dire, Takenoko, c'est pas un vrai jeu.
Si, je pense aussi. Mais je pense que pour ceux qui n'ont pas la gloutonnerie ludique comme nous et qui achètent pas 30-50 jeux, enfin 30 jeux, non, ça on achète rien qu'à Essen, 30 jeux, mais qui achètent pas 60 jeux par an, qui doivent en avoir qu'une dizaine, un par mois par exemple, bah, Tournai et Olympus doivent faire partie, bien sûr, de la ludothèque. Alors, trêve de blabla. Donc, Tournai, c'est un jeu de cartes. Dans lequel les joueurs vont gérer la. Alors je vous passerai le thème hein, parce qu'on n'en sait rien. Les joueurs vont construire un quartier de 3 cartes par. En fait, c'est un carré de 3 cartes par 3 cartes. Et c'est assez simple, à son tour de jeu, le joueur va d'abord pouvoir placer éventuellement une carte qu'il a en main. Donc les cartes, ça représente des bâtiments, des personnages ou bien des bâtiments de prestige. Les bâtiments vont permettre de réaliser derrière des actions, pouvoir piocher des cartes, pouvoir gagner de l'argent, etc. Les personnages sont des cartes qui donnent un bonus. Et les bâtiments de prestige sont les cartes de fin de partie qu'on place qui vient de gagner plus de points de victoire, un peu comme les gros bâtiments violets dans Puerto Rico.
Un peu à la manière de 3 alors, avec des combos qu'on peut mettre en place avec des cartes que tu acquiers et puis qui vont te permettre de faire des choses après.
Je sais pas si c'est de la combo, non c'est pas pareil, mais t'as les personnages en fait qui donnent un bonus quand tu vas réaliser une action dans les cartes qui sont adjacentes, enfin en ligne ou colonne à côté, en gros à 4 cartes. Par exemple, on a une, c'est que quand tu vas... On retrouve dans le 2-3, tiens, j'ai oublié de préciser, on retrouve 2-3 la notion des 3 couleurs des pions.
On retrouve le graphisme en fait.
On retrouve carrément le graphisme.
La graphique
ouais.
est la même.
Ouais, ce qui est pas pour déplaire, parce que au moins le jeu a son identité propre. Mais on retrouve les pions rouges qui représentent l'armée, les pions blancs qui représentent la religion, et puis les pions jaunes qui représentent les services municipaux, etc. Voilà. Et donc par exemple, il y a une carte personnage qui permet chaque fois que dans la ligne ou la colonne de cette carte personnage, on joue un pion jaune sur une carte jaune, on va gagner par exemple 2 sous en plus. Je sais plus ce que c'est de la monnaie. Bref, on gagne 2 sous de plus automatiquement.
C'est des francs belges.
Ouais, c'est du franc belge, voilà, c'est ça. C'est après l'euro. Alors.
Mais non, en tournée, c'est en Belgique. Franc belge. Bon, passons, vas-y, vas-y.
Là, tu me perturbes, c'est le bordel. Donc, le principe est simple là-dessus. À son tour de jeu, on n'a alors qu'une action. Les actions, donc on dispose en début de partie sur une petite carte qu'on appelle la place. On a deux bonhommes jaunes, deux bonhommes blancs, deux bonhommes rouges. Et les actions, on va les résoudre en enlevant ces bonhommes. Donc ça revient un petit peu au dé de 3. Et on enlève, par exemple, si on enlève un bonhomme jaune, on va pouvoir piocher dans la pioche 1 des cartes jaunes. Donc des bonus plutôt basés sur l'argent. Ça.
Et laisse-moi deviner, si tu enlèves deux bonhommes jaunes, tu pourras piocher dans la pioche 2 jaunes.
C'est ça. Donc des bâtiments un petit peu plus puissants que la pioche 1.
Et ça va jusqu'à 3.
Et ça va jusqu'à 3. Mais dans 3, c'est que les bâtiments de prestige. Donc ceux qui vont t'apporter les points de victoire. Donc tu vas y aller qu'en fin de partie.
Et comment tu fais pour avoir 3 petits bonhommes jaunes ?
Eh bien, en fait, il y en a 3 disponibles pour être recruté en cours de partie. Tout d'abord, à travers des cartes, t'as des bâtiments qui vont permettre de recruter des personnages. Ça va te coûter 2 ou 3 deniers. Je vais appeler ça des deniers, hein, je crois que c'est ça.
Francs belges,
ouais, très bien. Avec 3 francs belges. Sinon, il y a une autre solution. Un petit peu comme dans 3, on peut acheter les dés des autres joueurs. Ici.
On peut acheter les bonhommes.
On achète les bonhommes, ouais. Ça coûte 2 francs belges qu'on donne à l'autre joueur. Et dans ces cas-là, on utilise un de ces bonhommes. En général, il fait la gueule. Alors, bah, bon, c'est pas grave, mais il a donné 2 francs belges. Au pire, il réussira un autre pion.
Et tu peux lui donner 4 francs belges ou 6 francs belges pour avoir 2 bonhommes ?
Ouais, ouais, ouais.
C'est exponentiel aussi ou pas ?
Non, c'est pas exponentiel. Mais de toute façon, enfin, en général.
2, 4, 6.
Ouais, c'est. Ouais. Ou alors j'ai zappé la règle. Je l'ai joué comme ça. Les autres actions, donc, enfin, l'essentiel des actions, c'est piocher des cartes. Quand on pioche une carte, en plus, on en prend 2. On choisit laquelle on garde et l'autre, on la met face visible sur la pioche. C'est un système intelligent. Quelqu'un d'autre pourra choisir de prendre la carte visible la prochaine fois qu'il fera une phase de pioche.
À la manière de la gloire de Rome.
Un petit peu différemment, hein, parce que tu remets la carte disponible directement sur la pioche. Donc des fois, t'as une carte...
Ah, sur la pioche.
Ouais, tu la remets sur la pioche. D'accord. Tu prends 2 cartes, t'as 1, t'en prends une pour toi, et l'autre, tu la remets face visible. Et si quelqu'un d'autre, après toi, prend une action de pioche, il va pouvoir prendre ou bien la carte visible directement, ou bien il la remet dessous, et il en pioche 2.
D'accord.
Et c'est dur, parce que du coup, des fois, tu dis, « Ah ouais, mais si celle-là, je la remets... » Ah bah non, il va l'utiliser, donc je la garde. Mais du coup, c'est difficile. C'est surtout avec les bâtiments de prestige que le dilemme est plus fort.
Oui, la manière de la gloire de Rome où quand tu balances des cartes, bah tu proposes des cartes aux autres joueurs. Donc,
oui.
C'est dans le sens là que je voulais dire. Voilà, monsieur, il boit sa bière.
Petite pause.
Belge.
Belge, hein. Oui, c'est la couac.
Bon.
Bah écoutez, on est dans une thématique belge, on est à fond. Hein.
Et tu vas nous servir un petit saké après ou avec Takenoko ou...
Avec Takenoko, bah, je sais pas, c'est toi qui devais l'amener.
Quoi ?
Ah bah.
Le jeu, ça suffit pas.
Ah bah j'ai pas de saké.
Alors donc tournez.
Tournez, on continue. Donc voilà, on peut donc piocher des cartes, c'est ce qu'on va faire essentiellement en début de partie pour pouvoir construire son quartier. On ne peut faire qu'une action par tour. Ça, c'est important. En action gratuite, on peut construire éventuellement, enfin poser une carte en jeu, donc par rapport à celle qu'on a piochée les tours d'avant. Elles ont un coût, évidemment, il faut avoir les sous, sinon on peut les garder en main. Et puis sinon, en action, piocher une carte, on peut prendre un des pions aussi et le placer sur une carte de la même couleur. Bon, un pion jaune, je le place sur une carte jaune pour l'activer. Par exemple, pour gagner, j'en ai la ferme qui permet de gagner 4 francs belges. Très bien. Voilà, je gagne 4 francs belges. C'est important d'avoir quand même des sous. On peut aussi, il y a aussi la notion d'événement, comme dans 3, et on peut lutter contre les événements. On le fait rarement. Les événements arrivent de temps en temps, je vais y venir.
Mais alors justement, moi j'ai une question par rapport à 3, c'est est-ce que tourner se démarque vraiment de 3, ou alors est-ce que ça ressemble ?
Ouais, complètement en fait. C'est complètement différent.
Bah, tu me diras, si tu as viré l'un et tu veux garder l'autre, c'est que ça doit pas être pareil, mais de prime abord, ça ressemble beaucoup, quoi.
À deux joueurs, la partie se joue en 20-30 minutes. Le jeu est super dynamique. Et enfin, ça vraiment, pour moi, ça n'a rien à voir. Enfin, tu peux jouer à deux sans problème. À trois, à deux, il n'y avait pas assez de pression. Tu dis ce que tu voulais, etc.
Trois, il faut jouer à trois.
Ouais, bah, c'est ça. Mais tourner, ça marche très bien à trois aussi, je pense. Quatre, c'est trop. Voilà. Bon, on a un petit peu anticipé. Donc oui, ça reprend les idées de trois, mais la mécanique fondamentale qui est derrière a complètement changé. D'accord. C'est vraiment un jeu, c'est quand même un jeu de cartes. Hein. C'est un jeu un peu. C'est pas un jeu de cartes comme Race for the Galaxy, Dominion ou San Juan, par exemple, plus ancien, même si on construit des quartiers, etc. C'est quand même un jeu où on va chercher ta combo de cartes. Et plein de stratégies différentes sont possibles. Et il n'y en a pas une qu'on va pouvoir privilégier sur l'autre, parce que de toute façon, ça va déjà dépendre de ce qu'on va piocher comme carte au début.
Comme un Race.
Ouais, c'est
enfin,
ça.
Un peu comme Ares où en fait ta pioche t'emporte vers une un développement ou un autre.
Différemment de Race for the Galaxy quand même, c'est-à-dire que donc le jeu, il y a 9 tas de pioches puisque il y a 3 couleurs jaune, blanc,
avec
rouge
3 niveaux.
Et 3 niveaux, mais il y a que 9 ou 10 cartes par pioche seulement. Donc ça va vite.
Ouais.
Et on sait donc très rapidement, au bout de quelques parties, on sait quel bâtiment on peut avoir, etc., lesquels on peut avoir besoin. Reste plus qu'à se rappeler où est-ce que c'est. Mais si jamais c'est dans la pioche blanche ou la rejaune et à niveau 1 ou 2, mais globalement, rapidement, on a ses repères et on va pouvoir comme ça aller construire un petit peu, mais pas toujours quand même, parce qu'il y a les aléas de pioche. On peut pas se permettre de passer 3 tours à les piocher en espérant d'avoir la bonne carte. Enfin, on peut le faire, mais pour l'instant, si les adversaires, eux, ont eu les cartes qu'ils voulaient plus vite, c'est un petit peu dommage.
Même pas pour le prestige ? Même pas pour les bâtiments de prestige.
Les bâtiments de prestige, c'est un petit peu différent. Ouais, tu vas avoir tendance à les creuser. Il y a des bâtiments.
Est-ce que ça ressemble aux bâtiments A6 de Race ou des bâtiments A10 de Puerto ?
Non. Enfin.
Ça ressemble un petit peu à
Puerto. C'est-à-dire que par exemple, t'en as un où tu vas marquer, je sais plus, c'est 2 ou 4 points en fonction si t'as par trio de pions de chaque couleur. Enfin,
c'est des
voilà, ou par bâtiment, enfin par carte que tu as posé sur ton plateau, sur ton quartier. Oui,
c'est
tu
potentiellement
as ça.
Des cartes qui sont plus chères mais qui permettent de gagner beaucoup plus de points de victoire à la fin de la partie.
Oui, tu en as forcément besoin pour gagner. Mais il y a une nuance, c'est que toi tu marques des points, mais tes adversaires aussi. Par exemple, toi tu as marqué 4 points par trio, mais tes adversaires vont marquer 2 points. Donc tu vas le prendre, mais à condition que tu aies quand même une avance confortable, sinon des fois ça sert pas à grand chose. Tu vois, c'est un petit peu spécial cette partie-là.
Ça va plus loin que.
Ouais, ça va plus loin.
Bêtement,
et ça a une incidence importante à 4 joueurs, moins à 2. Mais ça fait partie de l'interaction qu'il y a entre les joueurs. La vraie interaction, elle est là, hein, entre les joueurs. Elle va être sur ce genre de choses. Et à travers les événements aussi, donc j'en ai pas trop parlé. Les événements, en fait, ça intervient dans chacune des cartes, dans chacune des pioches. Donc des 9 pioches, il y a une carte spéciale qui est le Crieur Public. Et. Quand elle arrive, ça résout des événements. Il y en a 3 qui peuvent être bénéfiques pour certains joueurs quand ils font qu'ils soient majoritaires dans une couleur, des choses comme ça, ou bien néfastes, et qui interviennent également dans les conditions de fin de partie.
Mais tu les connais à l'avance ?
Les événements, t'en as 3 qui sont
anticiper.
Posés. Ouais, tu peux les anticiper. Tu sais pas quand est-ce que le crieur va arriver. Tu peux très bien avoir les crieurs qui arrivent très tôt en début de partie. Et par contre, tu as des cartes qui vont te permettre de. Enfin, tu as une action qui est possible de lutter contre les événements, mais souvent tu as préféré faire autre chose, puis tu as des cartes. Qui ont des bâtiments qui vont te permettre de lutter aussi contre les événements. Voilà, donc la règle est très simple, puisqu'on peut juste poser une carte, action gratuite, poser une carte, et ensuite action, ça peut être aller piocher des cartes, activer une carte, aller chercher de l'argent, ou rapatrier tout son monde aussi, parce qu'une fois qu'on a réparti le monde, il faut comme le rapatrier sur sa place régulièrement.
Il faut bien avoir des actions, d'autres actions, il faut
voilà,
recycler,
pouvoir les ramener. Voilà, c'est tout. Donc les choix sont rapides, et ce qui fait que la partie peut être rapide. Alors à 4, ça engendre une frustration parce que comme on fait qu'une action au tour, on trouve toujours que son tour est court et le temps que les autres joueurs jouent, on se dit ah oh, mais j'ai envie ça, moi c'est à moi de jouer, je veux faire ça. Mais par contre l'interaction, enfin ce que j'aime bien à 4, c'est que il faut vraiment regarder ce que chacun construit dans les bâtiments de prestige, etc. Et celui qui s'en tirera le mieux, c'est celui qui aura su s'adapter avec tout ce que les autres joueurs ont joué. Mais ça rallonge inutilement la partie. À 2, une partie c'est 20 minutes. À 4, c'est presque une heure, quoi. Voilà, donc finalement, un jeu qui, je pense, se prête très bien pour du 2 ou 3 joueurs. Mmh. Dernier détail que j'ai beaucoup aimé. Le jeu propose une règle avancée pour aller encore un cran au-dessus quand les joueurs maîtrisent après une dizaine de parties. Et puis plus fort, il y a une extension qui est déjà incluse dedans, qui permet de renouveler les bâtiments. Donc vraiment, pour un jeu qui est vendu à une trentaine d'euros, je ne sais pas ce que c'est, 30 ou 40, 35 euros, un jeu avec une rejouabilité incroyable, forcément, du fait du jeu de cartes. Et qui en plus donc propose une règle avancée, des extensions, donc vraiment on n'est pas prêt de s'ennuyer avec un jeu pareil.
Quel âge ?
Alors, très très bonne question. Donc Tournai, donc un jeu de Sébastien Dujardin, Xavier Georges et Alain Orban chez Pearl Games.
Ah bah c'est pas Jean Dujardin alors ?
Eh non, c'est Sébastien, c'est peut-être le frère. Pour 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans, entre donc 30 minutes à 60 minutes, en fonction du nombre de joueurs.
Et puis 25 euros à peu près ?
Je dirais une trentaine.
Entre 25 et 30 euros.
Ouais, une trentaine d'euros. C'est vraiment. C'est un jeu absolument à avoir dans votre ludothèque.
Et
avec le prochain.
Je t'ai rarement vu aussi enthousiaste.
Ouais.
Par rapport à un jeu.
Ah ouais, j'ai fait plus de 10 parties en quelques jours, c'est incroyable.
Ouais.
Non, mais c'est ça en fait qui est bien. Parce que tu joues en 20 minutes. J'adore des jeux comme ça. Tu joues en 20-30 minutes et t'as un jeu qui est tout le temps de renouveler à chaque partie. Je t'ai parlé de Dominion ? Ah si, j'oublie un j'oublie par contre, non, je reviens pas sur 2 millions. Un gros défaut de tournée quand même. Un gros défaut.
Quoi? Il a des défauts?
Ah, il a un vrai défaut. Ouais, ouais. Alors, bah ouais, parce que Pearl Games, c'est un petit éditeur. C'est 3 auteurs de jeux brillants. Mais par contre, ils ont absolument pas le point de vue d'un éditeur en ce qui concerne l'édition et la réalisation, on va dire, du jeu. Ce qui fait que sur les cartes, elles sont affublées.
Ça casse en fait. Là.
Ouais, ça casse, mais vraiment, c'est un vrai. Enfin, ça peut rebuter les joueurs à la première partie. Parce que les cartes, c'est fait pour être international. Donc les cartes ont des icônes. Et les icônes ne parlent absolument pas. Et on se retrouve dans les cartes, fait. Mais ça fait quoi ça?
Non,
et
mais
ça
comme Race.
Il y en a des autres de jeux. Non, mais c'est.
Mais c'est comme Race, ça. C'est la première partie, tu panes rien. Et puis après, tu t'apprends l'iconographie. Mais
Ouais, mais c'est pire parce que, en fait, ça ne respecte pas l'iconographie que tu as l'habitude de voir dans d'autres jeux. Pourquoi? Parce que simplement, c'est pas un éditeur qui est rompu à ça. L'iconographie, l'art de rien. C'est là où on se rend compte que l'ergonomie dans un jeu, l'iconographie, il y a vraiment des choses qu'on a déjà l'habitude. Tu vois, poser une carte, on a l'habitude à ce que ce soit, je sais pas, une flèche un peu en arc de cercle. Et bah, pas là. Là, c'est des cartes, c'est des flèches droites, quoi. C'est des trucs tout cons, mais au début, tu restes. La première partie, c'est vraiment. Tu sèches, quoi. Et puis après, non, ça passe vite. Mais, enfin, c'est quand même à le dire parce que si vous l'essayez tourner et que. Vous ne vous rebutez pas dès la première partie, allez plus loin.
Je te trouve dur, mais bon.
Ah non, mais je suis enthousiaste par le jeu. Mais non, vraiment, il y a eu un écueil la première partie. Et je suis allé voir des critiques sur le coup, je me suis dit, c'est pas possible. Et si, j'ai vu même Gus de Gus & Co, il dit pareil. Hein. Il dit, la première partie, vous risquez d'être un petit peu rebuté par les icônes, mais après, ça va. Voilà, donc les gars, si vous nous écoutez.
Changez d'icône, le prochain jeu, faites attention.
Bah ouais, essayez de voir quelqu'un qui puisse vous conseiller sur cette partie-là.
Enfin, moi, mon avis à moi, c'est faites comme vous voulez, de toute façon.
Oui, enfin, si bon. Faites des jeux aussi bons. On en veut tout le temps.
Tournée a malheureusement été, enfin malheureusement ou pas, été détrônée par détrônée par Olympos. Et moi, je voulais vous parler de Takenoko. Takenoko, c'est un jeu d'Antoine Boza pour 2 à 4 joueurs qui aura à peu près 45 minutes et 8 ans et plus. Alors 45 minutes, c'est pas à 4. Ou c'est pas à 4 avec mes enfants. Et mon épouse, c'est un petit peu plus long, c'est facilement une heure.
Tu joues avec le cube, du coup?
Non, mais c'est. Enfin, moi, je réfléchis en dehors de mon tour et les enfants, ils ont pas forcément ce mécanisme-là de dire pendant que les autres jouent, je vais réfléchir et puis quand ce sera mon tour, je vais agir. Ils réfléchissent à leur tour. Mais bon, quoi, ils réfléchissent, c'est déjà pas mal. Alors, ce qu'il y a de rigolo déjà, c'est que donc dans la boîte, on a une règle. Qui est allemande, néerlandaise, espagnole et française. Et ce qui est rigolo, c'est que sur cette règle-là, c'est 8 ans et plus. Et puis on a la règle anglaise ou anglo-saxonne, et là c'est 13 ans et plus.
Ah, mais c'est toujours pour l'histoire des taxes américaines.
Quand on ouvre la boîte de Takenoko, on a un petit thermoformage, on a 4 plateaux individuels, plein de morceaux de bambou en 3 couleurs, des bambous roses, des bambous jaunes, des bambous verts, des petits bâtonnets bleus qui représentent irrigation, des hexagones qui représentent des bambouserées jaunes, vertes et roses à l'image des bambous. On a 2 petites figurines, une figurine de panda et une figurine de jardinier.
Peint par les petits chinois.
Pardon ?
Peint par les petits chinois.
Peint, oui ! Tout à fait,
faut dire, c'est joli, donc sans doute par les petits chinois, mais bon, ouais. Hein, c'est normal dans le thème. Hein.
Un dé, parce qu'il y a un petit peu de hasard dans Takenoko, des contrats et des aménagements. Le but du jeu à Takenoko, c'est de remplir des contrats.
Et de gagner.
Plus on va remplir de contrats, et plus on va gagner de points. Donc il y a des contrats qui valent 2, 3, 4 et jusqu'à 8.
En fonction de leur difficulté, non?
Ouais, alors après, bon, je suis pas sûr, j'ai pas assez de recul, mais je pense qu'il y a. Je sais pas si c'est super équilibré. Enfin bon, après, ça c'est un détail, il faudrait un petit peu plus de recul pour ça. Donc, l'idée à Takenoko, c'est de gagner des points en faisant des contrats, d'être celui qui a le plus de points à la fin de la partie. Le premier à arriver à 7 contrats à 4 joueurs, 8 contrats à 3 joueurs et 9 contrats à 2 joueurs arrête la partie. Il y a encore un tour pour les autres. Celui qui a clos la partie a un bonus de 2 points. Et puis, il arrête de jouer. Donc, à son tour, comment ça va se passer? Le premier tour, on ne va pas jeter le dé. On aura à choisir, on aura à faire 2 actions différentes entre les actions suivantes. D'abord, on peut prendre trois hexagones, en choisir un et le poser. Au départ, on va avoir un lac, un hexagone central, sur lequel sera posé le jardinier et le panda. Et ensuite, il va falloir poser son hexagone à côté de deux hexagones ou à côté du lac, qui compte pour deux hexagones. On va pouvoir également en récupérer un bâtonnet d'irrigation, qui va, quand on va le poser entre deux hexagones, irriguer les deux hexagones. C'est-à-dire qu'un hexagone sera irrigué s'il y a un bâtonnet qui est posé sur une de ses côtés.
Sauf s'il touche le lac central.
C'est une exception et ça l'irrigue automatiquement. Lorsqu'un hexagone est irrigué, on va prendre un bambou de sa couleur et on va le placer dessus. C'est-à-dire que dès qu'un hexagone est irrigué, le bambou commence à pousser. On peut également déplacer le jardinier. Le jardinier se déplace en ligne droite, c'est une contrainte. Et lorsqu'on l'arrête sur un hexagone, il va faire pousser le bambou de l'hexagone sur lequel il est placé et de tous les hexagones adjacents de la même couleur. C'est-à-dire que si je suis sur un hexagone vert et qu'à côté il y a un vert, un rose, le vert va pousser mais pas le rose. De la même façon, le panda va pouvoir être déplacé. Il se déplace en ligne droite et lorsqu'il s'arrête sur un hexagone, il va manger du bambou.
Bon appétit.
Petit gourmand. Et enfin, la cinquième action va être une action de récupération de contrats. Et les contrats sont de trois types. Le premier type, un type de paysage, c'est-à-dire qu'on va avoir des formes qui seront constituées de 3 ou 4 hexagones qu'il va falloir reproduire sur le plateau de jeu. Les hexagones devront être impérativement irrigués et vont rapporter des points si on arrive à faire ces formes-là. Ensuite, on va avoir des contrats de jardinier. Le jardinier fait pousser des bambous et le contrat de jardinier impose d'avoir par exemple 4 bambous jaunes, 2 fois 3 bambous rouges.
En plus des fois sur des tuiles particulières.
Sur des tuiles avec des aménagements. J'en parlerai tout à l'heure des aménagements. Donc l'idée de ce type de contrat, c'est qu'il faut faire pousser des bambous. Et enfin, les contrats panda. Lorsque le panda s'arrête sur un hexagone, on va récupérer un bout de bambou. Et lorsqu'on aura par exemple deux bouts de bambou rouges, on va pouvoir remplir le contrat à 5 points qui permet au panda de manger deux bouts de bambou rouge. Donc, une variété de contrats à remplir. Jusque-là, rien de compliqué. Et un élément perturbateur, c'est le dé. Rien de compliqué de toute façon non plus.
C'est pas perturbateur.
Ouais, c'est
l'élément de hasard.
Ouais, c'est
qui
ça.
Qui permet pas de tout planifier tes actions.
Ouais, c'est ça.
Mais ça perturbe pas quand même.
Bah, si.
Ah.
Bah, après, tu le prends comme tu veux, mais.
Oui, voilà. Vite perturbé.
Ouais. Donc, en plus de ces 5 actions de base, on va pouvoir avoir des actions supplémentaires. Donc, le dé à 6 faces, la première face, c'est une action supplémentaire. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire 3 actions différentes. On ne peut pas faire 2 fois le panda et 1 fois le jardinier. On est obligé de faire 3 actions différentes. On va pouvoir faire pleuvoir. Enfin, il y aura de la pluie qui va faire pousser un morceau de bambou. Les actions qui sont décidées par le dé sont optionnelles. Je le dirai tout à l'heure, c'est pas la peine de faire pousser si ça vous intéresse pas. Il faut pas, c'est mal. Le vent, c'est une des phases du dé qui permet de faire 2 fois la même action. Et parfois, c'est bien. C'est-à-dire que quand on fait manger le panda,
on
peut remplir un contrat. Il y a, pour moi, l'action ultime, c'est l'orage. L'orage fait déplacer le panda et le panda va où il veut. Et tu arrives à certains moments de la partie où les bambous ont poussé et là, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux remplir automatiquement un contrat quand tu as cette action-là. C'est pour ça que je dis que c'est perturbateur. C'est vraiment du hasard. Ça déséquilibre vraiment le jeu. C'est du hasard, c'est tout. Enfin, je veux dire, c'est pas.
Ça fait partie du jeu. Voilà.
Ça fait partie du jeu. C'est pour 8 ans. Plus.
Voilà.
Et puis, on n'en a pas parlé. C'est les aménagements. Alors, les aménagements, il y en a de base sur les hexagones et on va pouvoir les récupérer. Il y en a de 3 sortes. Premier aménagement, c'est l'engrais. L'engrais, c'est un petit symbole avec 2 râteaux. Et qui permet quand le bambou pousse, eh ben il va pousser de 2 sections et pas d'une seule section. Chaque fois qu'il pousse, il va pousser double. On va avoir aussi des hexagones avec qui sont de base irrigués.
Avec
On
un
va
petit
avoir une
bassin.
petite mare, un bassin, et donc il n'y aura pas besoin d'amener l'irrigation pour faire pousser les bambous. Et puis, enfin, on va avoir un aménagement qui... C'est un enclos. Alors, c'est pas le panda qui est dans l'enclos. C'est les bambous qui sont dans l'enclos pour protéger du panda. Et le panda peut pas manger les bambous.
Oh, pauvre panda.
Pauvre panda, oui. Bah alors, attends. Parce que déjà, t'as vu sa bedaine
Ah oui, oui, bah, il est gourmand. Ouais. Hein.
Donc, il y a déjà de base des hexagones qui ont cette sorte d'aménagement par défaut. Et on va pouvoir en récupérer, c'est la cinquième phase du dé, on va pouvoir récupérer les aménagements et puis on va pouvoir les poser sur une tuile où il n'y a pas déjà de. Où le bambou n'a pas encore poussé, où il n'y a pas déjà d'aménagement. C'est-à-dire quand un hexagone est complètement vide, on va pouvoir y mettre un aménagement qu'on aura choisi et qu'on aura récupéré grâce au dé. Et puis, la sixième phase du dé, c'est un point d'interrogation. On va pouvoir faire n'importe quelle action, on va choisir l'action qu'on va vouloir faire. Donc au final, bah c'est bien pensé, on fait deux actions à chaque tour, donc on n'attend pas trop.
Oui, t'as pas l'effet comme t'avais dans Tikal, etc., où il y a 10 actions par tour,
hein, ouais, c'est ça.
Optimise vers 10 actions et c'est un petit peu longuet.
C'est ça. Dès que le système de contrats et dès que les enfants ont intégré que en fait ils gagnent avec les contrats, parce qu'au départ ils veulent faire pousser des choses. Et quand on fait pousser des choses, et c'est un peu le défaut du jeu, c'est-à-dire que quand on pose des tuiles et qu'on fait des actions alors qu'on n'a pas le contrat en main, eh ben on joue pour les autres. C'est-à-dire que c'est un petit peu ce que j'ai constaté à ma première partie, et puis ben là j'en ai fait encore deux autres, je l'ai moins constaté, c'est qu'on se retrouve à avoir des contrats en main, et puis les autres jouent, on les pose, parce que les autres ont fait ce que toi t'attendais. Par contre, dès que tu sais que c'est quelque chose qui peut arriver, et bah tu vas pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire, j'ai dit tout à l'heure que les options, par exemple la pluie qui fait pousser du bambou, personnellement, quand ça m'intéresse pas, je ne la fais pas.
Bah oui. Parce que c'est facultatif. Ouais.
C'est facultatif, tu la fais pas. Ouais. C'est pas voilà. Irriguer, je ne le fais pas. Irriguer, tu peux le faire à ton tour quand tu veux, c'est une action gratuite. Je ne le fais pas avant d'avoir besoin d'irriguer les hexagones.
C'est une question d'apprentissage. C'est vrai que tu fais peut-être l'erreur la première ou la deuxième partie, puis après, de toute façon, tu ne le fais plus. Même les enfants, je pense, apprennent vite ça.
Oui, puis c'est quelque chose qui m'avait embêté lors de ma partie d'essai. Et puis, j'ai vraiment voulu creuser parce que, alors d'abord, je ne sais pas comment ils s'appellent ces gens-là, c'est les illustrateurs.
Je ne sais pas, mais c'est un très très beau travail.
C'est Nicolas Fructus, Pixel et Yuyo qui ont fait ça. Le panda est tout kawaii, c'est super joli. La petite figurine peinte par la main par les Chinois, c'est super joli.
Mais toute la réalisation globale est super. Les bambous.
Les bambous sont très classe.
C'est pour ça qu'ils en sont arrivés à être à deux éditeurs d'ailleurs dessus. Hein.
Bombix.
Il y a Bombix et Matago.
Et Matago. Et voilà. Donc c'est une petite boîte avec un thermoformage avec plein de choses dedans. C'est pas très cher, c'est environ 35 euros.
Ouais, en fait, moi ce que je trouve, c'est que c'est un peu made in China là, dans la fabrication. Je trouve que les tuiles. Moi j'ai joué le dimanche soir à Cannes après un salon où il a dû bien tourner le proto et il accusait quand même le coup. Maintenant, il faut savoir que le jeu, du coup, il a tourné des dizaines de parties et que c'est normal qu'il se soit abîmé. Et c'est la vie d'un jeu, ça me choque pas nécessairement en fait. Et c'est ce qui permet que le jeu soit si peu cher, hein, c'est qu'il a été fait en Chine aussi. Hein, parce que sinon, un jeu de cette qualité là, ça vaudrait facilement plus de 50 euros. Est-ce qu'il raterait son public à ce prix là?
Donc, ma conclusion, l'As d'or de Cannes, c'est juste mérité. C'est-à-dire que, effectivement, il était formaté pour un jeu grand public. 4 personnes, enfin 4 joueurs, ça marche bien 4 joueurs, ça dure pas très longtemps. Okay, à mon avis, ça dure plus d'une heure. Surtout pour des gens qui n'ont pas l'habitude de jouer, c'est quand même assez un petit peu plus long. Il y a une vraie profondeur dans ce jeu, parce que c'est un jeu où tu fais des contrats et où tu peux justement... garder en main quelques contrats en disant je vais pas m'arrêter à 7 en fait, enfin je vais m'arrêter à 7 mais au dernier tour je vais pas en faire qu'un seul, je vais en faire 2, je vais en faire 3. On a une limitation de main qui est de 5 contrats, mais si tu t'en sors bien tu vas pouvoir faire plein de contrats à la fin du jeu, et là tu vas pouvoir passer devant celui qui a arrêté le jeu.
Bravo.
Et c'est là que tu te dis ok, c'est un jeu familial, ça marche très bien avec les enfants, mais entre joueurs avertis, non seulement tu
laisses aucune chance à tes enfants, quoi. Non. Olivier est impitoyable.
Non, mais je les aime bien, mes enfants. Et puis d'abord, il faut qu'ils apprennent.
Eh non, mais je suis d'accord, moi je. Il n'y a pas de...
Comment ça, aucune chance.
Ils n'ont pas de chance. Moi, je leur laisse pas plus de chance parce qu'ils sont enfants que...
Et voilà, donc c'est formaté pour la famille, mais ça plaira aussi aux joueurs avertis. Donc c'est juste bien.
À des joueurs, ouais, pas aux gros joueurs peut-être quand même. Je pense qu'entre gros joueurs, c'est pareil, tu vas leur sortir une autre boîte. Oui, avertis, voilà. Ou des joueurs même, des gens qui ont plaisir à jouer.
Ouais.
Avant, on sortait Agricola, bon, maintenant on pourra sortir Takeno.
Ouais.
C'est pas le même niveau, hein, mais...
Non, c'est pas le même niveau.
Mais ça plaira autant, je pense.
Mais c'est un peu plus accessible pour les enfants de 8 qu'Agricola.
Ouais, et vraiment, enfin, ça marche vraiment à 8 ans, et même, je pense, à 7 ans, si les enfants sont rompus au jeu.
Oui. Oui. Numéro 2, il a 7 ans, et enfin, il va avoir 7 ans dans un mois, et ça marche bien. Enfin, ouais. Lui, il est un peu... C'est toujours pareil, hein, c'est...
Non, mais ils sont rompus
au
jeu.
C'est marqué sur la boîte 8 ans, ça marche bien avec 8 ans. Après, si vos enfants sont un petit peu plus formatés jeux de société, peut-être que ça marchera un peu avant. Donc voilà, Takenoko d'Antoine Bozard, 2 à 4 joueurs, 45 minutes, 8 ans et plus, et puis environ 35 euros. N'hésitez pas, c'est un as d'or et ça le mérite amplement.
Et puis un petit mot du sponsor quand même, Olivier.
Ouais, notre cher sponsor.
Voilà, donc c'est Ludic Bazar, hein, parce qu'il faut le nommer.
Oui, c'est
on
vrai.
On peut pas dire celui qu'on nomme pas, il faut le nommer.
Je veux dire ludicbazar.com.
Ludicbazar.com, voilà, exactement, la boutique, une grosse boutique en ligne qui vous propose plein de jeux sur un peu tout, jeux de société, jeux de rôle, jeux de figurines, etc. Et qui propose pas mal de déstockage. Et donc deux choses, enfin j'ai même trois choses à préciser. Au moins trois choses, non mais sur la boutique là, à préciser rapidement. Il y a actuellement une offre de déstockage sympathique sur des jeux de société. Qui sont peut-être passés sous votre radar parce qu'ils sont sortis il y a un petit moment, parce que je sais pas, vous étiez pas au courant, parce que j'en sais rien. Bref, il y a donc il y a les jeux Frontières, il y a Dracomundis, il y a le jeu des dragons, il y a quelques jeux Lego, parce que Lego fait du jeu de société depuis 2 ans, et puis il y a surtout Heroica. Alors,
Heroica.
Voilà, moi je dis Heroica parce que je sais plus ce que ça veut dire, Ika,
oui,
mais.
Oui.
Voilà, il y en a qui disent Heroica. 3 jeux de Emmanuel Beltrando, très sympa, hein, qui se jouent à deux. Une sorte de dungeon crawl parce que c'est la thématique. Il y a un joueur qui joue l'aventurier qui va devoir explorer le donjon et l'autre joueur qui va faire le maître du donjon qui va lui opposer des monstres basés sur des calculs de probabilité, etc. Mais bref, on peut le jouer un petit peu différemment. Il existe en 3 boîtes différentes qui vont poser différents monstres. Et actuellement, donc, il y a des promos sur ces jeux-là. Alors, moi, je vous parle surtout d'Heroica parce que pour moi, c'est des jeux qui sont très très sympathiques, que j'aime beaucoup. Chaque boîte est proposée à 4 euros. Il y a même une offre promo. Si vous prenez les 3, c'est seulement 10 euros.
Vous prenez pas beaucoup de risques à acheter les 3.
Ouais, carrément.
Surtout qu'il y a une gradation, en fait, dans le.
Et qu'on peut les mélanger.
C'est ça.
Voilà, ouais. Et bon, faut savoir que chaque jeu avant, lors de la sortie, je dis il y a 2 ans, mais c'est mieux plus de 2 ans, c'était 20 euros chaque boîte. Voilà, les autres opérations, c'est jusqu'au 9 mars notamment, ils vous proposent, même si vous n'êtes pas encore, je dis bien encore, un client fidèle, ils vous proposent quand même de bénéficier de la réduction à 15%, comme si vous étiez un client déjà de niveau Ruby. L'air de rien, c'est pas mal. Et puis dernière chose,
excuse-moi, ça permettra d'acheter par exemple un Perplexus original à 18 euros.
L'air de rien. Voilà, Perplexus original, effectivement, c'est un jeu solitaire, mais un jeu de parcours dans une boule en 360 degrés. Si vous ne connaissez pas encore, si vous n'écoutez pas Proxy Jeux depuis,
non, on en a parlé.
Bah oui, justement.
On en a parlé dans le petit segment qu'on a fait sur Cannes.
Oui, mais on n'a pas rappelé ce que c'était.
Et je mettrai une photo pour que vous verrez.
Voilà, donc
pour
vraiment,
que vous voyez bien ce dont on parle.
Voilà, donc ne serait-ce qu'un Perplexus à 18 euros, des Heroica à 10 euros, c'est déjà top. Oui. Et puis dernière chose, je crois qu'on en a pas encore parlé, mais ils acceptent un certain nombre de types de chèques cadeaux chez Ludic Bazar. L'air de rien. Si vous en avez, notamment par les CE, souvent il est possible d'avoir des chèques cadeaux avec des rabais, des machins comme ça. Mm-hmm. Alors je sais plus ce que c'est, les types de chèques cadeaux.
Les Cadoc.
Les Cadoc.
Les Caradoc.
Non, il n'y a pas de Caradoc. Il y a du gras.
Je ne mange pas des graines. Bon, passons.
Bref, voilà. Bon, donc, d'autres façons de payer que... que payer par carte bleue. Vous pouvez donc aussi éventuellement passer vos chèques cadeaux chez Ludic Bazar.
Voilà.
Donc
ludicbazar.com. Ben non, vas-y.
Ah bah tu me coupes.
C'est le spécialiste. C'est le spécialiste des jeux, du discount, du neuf, de l'occasion. 14 000 références en stock.
Ah, quel entraînement. Donc allez les voir, hein, c'est eux qui vous permettent d'avoir ce podcast dans les oreilles. Et on en est où maintenant, Olivier ?
On en est aux événements.
Ah.
Les événements qui sont nombreux en mars.
Et oui, c'est le printemps, le soleil revient.
Les cailloux sont en fleurs.
Voilà, c'est ça.
Les oiseaux chantent.
Un petit peu, encore un petit peu tôt peut-être pour ça.
Mais... Pour les oiseaux ?
Non, pour les cailloux.
D'accord. Alors, je vais commencer. C'est le week-end jeu, 48 heures non-stop. Ça se passe 10 rue des Carreaux, 62 200 Boulogne-sur-Mer. C'est Jeux & Co qui organise ça. C'est un week-end de jeu du vendredi 9 mars jusqu'au dimanche 11 mars. À la maison de l'étudiant, pardon, 10 rue des Carreaux, 62 200. C'est à partir de 20h, c'est 2 euros l'entrée.
Allez, j'enchaîne avec le festival Ludinor. Enfin, oui, c'est un festival qui a lieu donc, eh ben, comme son nom l'indique, dans le nord, à Fort-de-Mons, vers Mons-en-Barœul. C'est pareil, c'est à peu près c'est le même week-end. Ça tombe les samedis et dimanches 10 et 11 mars.
On pourra pas faire les deux alors.
Ah non, on peut pas faire les deux.
On peut pas faire les 48 heures et aller.
Non, mais mars, c'est un mois qui va être blindé en événements. Donc, il va falloir faire des choix. Il va falloir faire des choix. Voilà, c'est la quatrième édition. Donc, c'est le samedi, ça commence à 10h jusqu'à 22h. Il prévoit même un off le dimanche, c'est 10h à 19h. C'est 2 euros par jour, gratuit pour les enfants de moins de 10 ans accompagnés. Et puis, bon, bah, évidemment, c'est un jeu, c'est un salon où, donc, où il est possible de tester plein de jeux. Il y a tout plein d'éditeurs qui sont présents. Voilà, et les infos, c'est sur ludinor.fr.
Et ben, j'enchaîne. J'enchaîne parce que le 16 et le 10, enfin, du 16 au 18 mars, à la Maison du Peuple de la Chaux-de-Fonds,
en Suisse.
En Suisse, se déroulera l'UDESCO, le festival des jeux, la troisième édition. 52 heures non-stop. Alors là, on fait 48 heures, alors on passe à 52 heures.
Ah, c'est la surenchère, c'est la surenchère.
Du vendredi 16h au dimanche 20h. Voilà. Donc, l'UDESCO, c'est un événement majeur en Suisse et ça va être poursuivi le 31 mars, 1er avril par l'édition 2012 de Tromeunion. Mais Tromeunion même, Orchidée. On vous en parlera plus tard. Donc, okay. L'UDESCO, 16-18 mars 2012. La Chaux-de-Fonds, 3e édition. Allez-y.
Et puis je continue pour finir quand même cette salle d'événements. Je pense qu'on va rester à ce week-end-là. C'est le Festival du Jeu à Valence. Donc il faudra choisir, pareil, encore une fois, entre Valence et la Suisse. Et donc le Festival du Jeu de Valence, c'est le samedi et le dimanche, de 14h à 20h pour le samedi. Et de 10h à 19h pour le dimanche, au programme 5000 m² d'espace de jeu. Donc pareil, plein d'éditeurs, plein de tout pour découvrir le jeu.
Plein de choses, allez-y.
Non, mais tous les salons sont les mêmes, on va pas vous répéter.
Tous les salons sont les mêmes et puis ils sont tous différents en fait.
Oui, ils sont différents, mais globalement, sur le papier comme ça, c'est plein de jeux de société, encore des occasions d'aller en famille pour découvrir plein d'éditeurs.
Ce qu'il faut retenir, c'est que de toute façon, près de chez vous, que vous soyez plutôt dans le sud-ouest, que vous soyez plutôt dans l'est de la France, comme on est, enfin nous on est plutôt sud-est,
dans le nord, là.
Ou dans le nord, il y a un salon qui va se dérouler près de chez vous, et vous pourrez y aller découvrir des jeux de société, vous pourrez aller jouer non-stop pendant 52 heures, et la vie est belle.
Voilà, et si vous êtes en Bretagne, bah c'est qu'il doit y en avoir aussi, mais...
Oui.
Mais il faut juste nous les envoyer, il faut juste nous le dire.
Non, il y a le Corsaire Ludique en Bretagne.
Oui, mais il y a un événement là tout de suite, un week-end ludique
en
là.
Mars.
Tac, tac. Oui, il doit y en avoir, mais ben, c'est que il faut nous envoyer des infos.
Et puis, on en parlera. On passe aux écrans, Jérémy.
Les écrans, mon Dieu, que l'actualité est encore pleine dans les écrans. Il va falloir qu'on fasse des choix, Olivier. On ne peut pas parler de tout.
Mais si, on peut parler de tout.
Mais pas avec n'importe qui.
Eh oui, cher auditeur, on peut parler de tout avec toi.
Blue Lion sur iPad. Alors, très très rapidement, parce que j'ai testé l'application à Cannes, puisque donc, comme j'en ai parlé dans le dossier Cannes, qui sera extrait, bon, c'est pas grave.
que vous pourrez écouter.
Que vous pouvez écouter dans quelques jours.
Ça sera mis en ligne un petit peu avant, un petit peu après, je sais pas, en même temps que les actus.
Voilà.
Ça va suivre.
Bref, donc à Cannes, il y avait des stations iPad où on pouvait tester un certain nombre de jeux.
Les stations iPad ? C'est comme les stations de métro ?
Ouais, c'est des sortes de bornes en carton, auquel en haut il y avait un iPad comme ça, et tu pouvais jouer dessus.
Mais tu pouvais pas piquer l'iPad ?
Non, tu n'avais même pas le bouton Home, je crois, c'était vraiment bloqué sur l'appli. C'était vraiment tout caché dans le carton.
Ça fait pour, quoi.
Ouais, ouais. Incroyable. C'était magique. Bref, donc on pouvait tester Blue Lion. Alors en fait, avant, pour citer le contexte, l'auteur, c'est Stéphane Legrand. Enfin, l'auteur. Pas l'auteur du jeu, mais la réalisation iPad, c'est Stéphane Legrand. Donc, trois jeux sont sortis dans le même mois sur iPad. Alors, on va le voir. Eh ben, ça se sent. Ça se sent dans la qualité des jeux, notamment sur Blue Lion, parce que Blue Lion, bah, du coup, moi j'ai trouvé que la réalisation était particulièrement légère. La règle du jeu est bourrée de fautes de français, ça manque de relecture, c'est une catastrophe. Enfin, tout de suite, c'est pas engageant, quoi, quand on lit la règle et qu'on voit que c'est bourré de fautes, c'est pas engageant. Les graphismes sont pas exceptionnellement super, je sais pas, j'ai trouvé que c'était c'était pas fini. Je suis pas sûr qu'il ait fait une version spécifique iPad, spécifique iPhone, parce que c'est un jeu qui est universel et qu'on peut jouer sur les deux plateformes. Voilà, et en plus après j'ai vu dans les commentaires qu'a priori la version iPhone est buggée aussi, dans le sens où toutes les cartes ne s'affichent pas correctement sur iPhone. Donc, ça, voilà, ça je l'ai pas testé sur un iPhone, je n'en ai pas. Voilà, après le reste du jeu, bah c'est un petit jeu abstrait pour deux joueurs où on va faire permuter des cartes pour essayer d'obtenir des combinaisons pour emprisonner Arsène Lupin ou Lady X entre des policiers, ou bien que Arsène Lupin ou Lady X emprisonnent des diamants pour récupérer des diamants. Il y a un petit mode contre une intelligence artificielle. Alors ça, je vais pas tester. Hein. J'ai juste rapidement pris en main à deux joueurs, donc je peux pas juger de l'intelligence artificielle. Parce que le peu que j'ai testé m'a un petit peu déçu. Pour le reste, je veux dire, la prise en main du jeu, etc., c'est correct. Hein. Ça m'a pas semblé bugger plus que ça. C'est proposé à 1,59€ en version universelle, donc pour iPhone et iPad.
Je peux dire que c'est cher.
Ouais, on peut dire que c'est... Moi, bah, franchement, en fait, 1,59€, ça paraît pas forcément si cher que ça.
Mais Blue Lion, c'est une petite boîte qui vaut pas 10€.
Mais voilà, Blue Lion, c'est une boîte qui vaut, voilà, qui vaut 8-9€, première chose. Et deuxième chose, moi, par rapport aux erreurs de réalisation qu'il y a, bah, je l'ai pas acheté, tout simplement. Ouais, alors que, je veux dire, j'aurais été prêt, hein, si ça avait été bien réalisé et tout, pourquoi pas. Bon, c'est vrai que je le préfère à 79 centimes, mais...
Mais c'est vrai que ce 79 centimes, c'est le... C'est le prix de base pour iPhone, donc dès qu'il est universel, 1,59€, c'est pas...
Voilà, non mais parce que c'est un jeu qui, même s'il a pas une vraie profondeur, c'est quand même un jeu qui est sympa, et mon gamin a tout de suite accroché à la version iPad sur le salon. Et c'est toujours tout de suite un jeu qui attire quand même. Donc voilà, mais sa réalisation m'a suffisamment déçu, donc j'attends que ce soit corrigé.
Ok.
Voilà. Tu as testé Hive sur iPhone.
Oui.
À l'époque où il était...
Gratuit.
Gratuit, parce que c'était son lancement.
Et j'ai tweeté, donc si vous voulez profiter des bons plans, ben, il faut vous inscrire, me suivre sur Twitter.
Oui, parce que maintenant, il est passé à 79 centimes.
Ouais.
Alors, autre petit problème, ce qui fait que moi, je l'ai pas installé sur mon iPad parce que je ne suis pas à jour, c'est que c'est iOS 5 qui est requis.
Donc, Hive, donc, alors c'est rigolo parce qu'ils ont sorti Army of Frog. C'est Gen 42 qui fait ça. Army of Frog qui est vendu très cher, enfin 3€, 2,99€, 3€.
Ah ouais.
Donc 2,59€, je sais plus. Enfin bon. Donc voilà, ben Hive, c'est Hive.
Donc on en a déjà parlé dans plein d'épisodes précédents.
Voilà. on peut jouer, je crois qu'on peut jouer à deux, ou on peut jouer contre l'IA. Je vais dire tout de suite pourquoi je vais être léger sur ce test, c'est que c'est super moche.
Non, j'ai super vu les moche. Visuels, ça m'a pas paru effectivement brillant.
C'est une sorte de grille en fait. C'est un petit peu comme si tu sais, t'avais une sphère éclairée par dessous, ou même, enfin, c'est une plaque.
Un plateau, ouais.
Tu sais, avec des alvéoles. Et en fait, tu vas poser tes pièces sur l'alvéole. Et c'est pas du tout sympathique à prendre en main. C'est-à-dire que je sais pas. C'est pas.
Non, oui, t'as vraiment tout de suite, ça t'a pas engagé, quoi.
Non. Et puis le format, c'est un petit peu comme pour Blue Lion, c'est-à-dire que le format du jeu, t'as des formats qui se prêtent bien à ça. Là en l'occurrence, bah, tu prends ton Hive ou ton Hive Pocket, tu l'emportes dans ta poche, tu le mets partout, c'est facile à mettre en place. T'as pas une valeur ajoutée de l'application par rapport au jeu de base.
Oui, par rapport à un Puerto Rico, t'es bien content de l'avoir qui dans une tablette plutôt qu'une grosse boîte carton.
Et là en l'occurrence, bah, c'est bien fait. Donc tu cliques sur ta pièce, tu cliques sur ton hexagone, ça fait le travail si tu veux. Je saurais pas dire si l'IA est bien ou pas, mais voilà quoi. C'est aliasé, c'est... Je dis, je suis rebuté déjà par le plateau. Voilà.
Donc, on peut être difficile, hein. Il y a maintenant une quarantaine facilement de jeux de société disponibles sur iPad, on peut, iPad, iPhone, on peut être
Mais par contre, si vous avez envie d'acheter, c'est toujours pareil, si vous avez envie d'acheter le jeu, vous savez pas trop ce que ça donne, c'est toujours un bon passage, c'est un petit peu, c'est 80 centimes moins cher qu'un café.
Tu veux dire, si vous avez envie d'acheter le jeu de société en bac élite.
Ouais, voilà. Tout à fait.
Ouais, c'est vrai.
Plutôt que de mettre 20 euros tout de suite, vous essayez, vous voyez ce que ça donne et puis un petit peu ce que ça peut... comment ça peut tourner, et puis après, si ça vous plaît, vous achetez le jeu. Ça permet d'essayer à moindre frais, quoi.
Oui, c'est pratique.
Voilà, donc j'irai... J'ai pas été transcendé, je suis bien content de l'avoir eu gratuit.
On te sent enchanté.
Voilà. Oui, on me sent, hein. Ouais. Voilà.
Dans le même genre de jeu qui a pris une petite inflation, c'est comme ça, il y avait Ticket to Ride Pocket, qui était donc la version Aventurier du Rail pour iPhone. On vous a présenté la version Aventurier du Rail sur iPad l'année dernière. La version sur iPhone permet de zoomer, dézoomer sur la carte, etc. Ah ouais. Un peu plus sympa.
Et puis je l'ai tweeté ça aussi.
Ouais,
Suivez-moi.
Oui, il faut
follow me sur Twitter.
Suivez Olivier. 10 tweets par jour minimum. Alors, c'est
que de la qualité, hein, monsieur.
C'est bien sûr.
C'est pas la quantité, hein. C'est pas la taille qui compte. Hein.
Parce que quand il la canne, c'est 30 par jour.
Et alors? Non, mais je raconte pas les live tweets de mon assemblée générale de copropriété.
Non, ça, il vaut mieux pas. Heureusement, tu le fais avec un autre compte Twitter.
Non.
Ah, j'ai pas fait gaffe ce jour-là. Ticket to Ride Pocket est passé maintenant à 1,59€. C'est dommage pour ceux qui n'y avaient pas craqué avant.
Attends.
Dans une version non universelle.
Voilà, j'ai dit Blue Lion, 79 centimes pour le côté iPhone, mais c'est universel, donc ok, 1,59€. Là, c'est 1,59€ et c'est même pas que iPhone.
Ah non.
C'est que iPhone.
Parce que tu veux la version iPad, il faut la repayer à 5€.
Et après, t'as 79 centimes par map, 1910, tout ça.
Alors justement, sur Ticket to Ride, donc il y a la version 1.2 qui est sortie. Alors qu'est-ce qu'elle a mis la version 1.2? La possibilité.
Bravo.
La possibilité seulement, après, voilà, d'acheter la USA, l'extension USA 1910, qui pour moi est quasi obligatoire avec les aventuriers du rail de base, pour vraiment renouveler le jeu. Non, vraiment, oui, je trouve que l'objectif des aventuriers du rail de base, c'est bancal, et je trouve qu'il y a vraiment besoin de cette extension. Ben voilà, il faut la payer. Donc si vous avez un iPad, que vous avez acheté les aventuriers du rail, que vous avez déjà acheté l'extension en plus dedans, bah, il faudra tout repayer si vous le voulez sur votre iPhone. Donc avec Olivier, on a tendance à râler, c'est vrai. Hein. C'est pas parce qu'on a claqué 500, 700 euros dans des iPhone, iPad, qu'on va claquer 1€, hein, dans un jeu sur l'iPad. Non mais franchement.
Ouais, mais c'est pas le problème.
Le problème, c'est que t'as
beaucoup de choses. T'as de plus en plus de jeux de société sur iPad, iPhone. Et le problème, c'est que, effectivement, t'as une inflation. Et en fin de compte, à quoi ça sert d'avoir, enfin, je veux dire, s'il faut que tu claques 3€, 4€, 5€ sur un jeu pour micro-paiement comme ça, avec du download content, je sais plus comment ça s'appelle.
DLC.
Du DLC. Voilà quoi. Enfin. Tu vas te retrouver avec 8-10€ claqués dans du Ticket to Ride pour le même jeu. C'est-à-dire que tu vas voir, tu n'as pas une version universelle, tu as une version sur iPad, une version sur iPhone. Et voilà quoi.
Alors, on avait parlé de Carcassonne une fois, je ne sais pas comment j'ai claqué entre les différentes versions de Carcassonne que je peux avoir entre la Xbox, la DS, l'iPhone, l'iPad, l'Android. Je l'ai en pleine version, Carcassonne. C'est un jeu largement rentabilisé, je pense, dans ces cas-là.
Et tu vois, je râle moins pour Small World. Small World, j'ai acheté des extensions, j'étais content parce que.
Mais c'était au début.
Mais il n'y en avait que deux.
C'était au début de l'iPad.
Oui, mais il n'y avait pas. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas eu cette gradation où c'est un peu le sentiment que ça donne. C'est d'abord payez-le une fois, c'est bon, vous l'avez payé, repayez-le maintenant qu'on
sur iPad. Non, puis en plus, quitte à augmenter le prix de la version Ticket to Ride Pocket, autant inclure USA 1910 dans le.
Dans la
nouvelle version, je pourrais tout à fait comprendre qu'ils aient décidé d'augmenter le prix parce qu'ils intégraient USA 1910 de base dedans. Mais non.
Et d'un autre côté, ce qu'on peut. Enfin, il faut quand même qu'on remette les choses dans leur contexte. Ticket to Ride, c'est un des meilleurs jeux qui a été porté sur.
Oui, c'est un excellent portage. Oui, bien sûr.
C'est un excellent portable. Moi, je suis très très content. C'est ce qui marche.
Mais tu joues sur ton iPhone ou pas? Par rapport à l'iPad. Sur l'iPad, non. Je crois qu'ils y prêtent mieux. Sur l'iPhone, ouais. Je sais pas.
Bon, c'est petit, c'est. Non. C'est bien réalisé, hein, mais non. J'aime. Enfin, et puis après, quand tu comptes un iPad, tu prends goût à l'iPad.
C'est ça.
T'as quand même, voilà. Tu peux mettre tes doigts, c'est grand, c'est bien. Voilà. J'ai des gros doigts, moi, donc après, quand c'est sur l'iPhone, c'est trop petit. Donc voilà, Ticket to Ride, c'est passé à 1,59€, plus 0,79 centimes pour USA 1910.
Extension que je recommande quand même fortement.
Passe à Timeline.
Alors, ouais.
Le gros morceau.
Et il y avait. Tu veux pas parler de cette merveilleuse. Ce randomizer pour Kingdom Builders?
Ah si!
Parce que là aussi on gueule contre les trucs payants, il y a des trucs des fois on ne comprend pas.
Ah si, alors ça c'est extraordinaire. Alors donc Kingdom Builders c'est un jeu qu'on ne présente plus, on en a parlé dans le numéro
29.
29. Krilin, merci. Et le principe de Kingdom Builders c'est qu'on va avoir des plaques représentant des paysages et qu'on va assembler 4 plaques pour pouvoir commencer à jouer. Et là, cette application iTunes qui coûte 0,79 centimes,
oui monsieur,
va vous permettre de choisir les plaques. Incroyable.
Sinon, vous auriez pas pu le faire.
Bah oui.
Heureusement qu'on a un iPhone et qu'on a cette application.
Et d'ailleurs, c'est une application toute moche avec des plaques marron. Et on va vous dire, bah voilà, vous prenez cette plaque et cette plaque.
Vous le mettez en tas de sens.
Alors, il y a deux possibilités. Ou alors, on n'a pas compris l'intérêt.
Oui,
ou alors, on a trop bien compris l'intérêt.
Je pense que tu manques de randomize chez toi, à titre personnel.
C'est ça. Bah. J'ai qu'à appeler mon gamin, je lui dis, tiens, je faisais en 4.
Ce type d'application, si c'est gratuit, pourquoi pas, mais le fait que ce soit payant, c'est...
C'est du foutage de gueule.
Ah, oh, ça y est, les
on
mots
on peut passer à Timeline HD.
Alors, j'éteins ma Timeline et puis, oui, et puis on...
Je peux.
Bah vas-y, vas-y.
Non mais tu veux passer, tu veux parler de Haru Ishiban?
Il y a Haru Ishiban aussi est sorti. C'est pareil, c'est de toute façon les deux. C'est un jeu de Stéphane Legrand, c'est un jeu pour deux de Bruno Catala. Il a la particularité, celui-là, je peux me tromper mais je ne pense pas, qu'il n'existe que sur iPad. Il n'est pas, c'est pas un jeu qui est sorti sur en version jeu de société classique. C'est un jeu, on est un petit peu comme dans Takenoko, hein. On est sur le, on va dire sur l'Orient, l'Extrême-Orient.
Ah, ça nous manquait.
Une petite ambiance.
Jouer les jardiniers japonais avec Haru Ishiban.
Alors j'ai oublié ce que veut dire Haru Ishiban, hein. C'est genre printemps, je sais pas quoi. Mais... Voilà, bref, la musique, bon, elle est correcte en fait. Exceptionnellement, ce genre de musique que je peux laisser quand je joue, celle-là, parce qu'elle est pas. Hein. Ça reste une musique assez zen. Le. Principe du jeu, c'est un jeu en fait où il va falloir réaliser des figures. C'est un jeu de placement, il va falloir réaliser des figures avec des nénuphars. Donc ça va être par exemple faire un carré de 2 par 2 de nénuphars côte à côte, ou bien un alignement de 4, que ce soit en diagonale, ou bien à l'horizontale ou à la verticale. Ou alors carrément plus fort, un alignement de 5 nénuphars en diagonale, et là c'est la victoire immédiate de la partie. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, chaque fois qu'on réalise un de ces alignements, c'est la fin d'une manche, et on marque des points. Le premier qui arrive à 5 points l'emporte. Pour jouer, là-dessus, c'est un petit peu, c'est assez original. Il y a une sorte d'enchère au départ, c'est-à-dire que les joueurs ont des pions numérotés de 1 à 9, il me semble. On va en avoir 3 devant soi, et on choisit lequel on va miser. En fonction si on a misé le plus fort ou le plus petit, on ne va pas avoir le droit aux mêmes actions. À savoir que si on a misé le plus faible, on va devoir poser notre nénuphar, enfin notre fleur de nénuphar, en fait forcément sur le nénuphar qui est sombre. Il a en fait été choisi le tour d'avant. Et donc on met son nénuphar à cet endroit-là. Ensuite, le joueur qui a joué la valeur la plus forte d'enchère place lui sa fleur nénuphar où il veut. Celui qui a joué la valeur la plus faible va ensuite être libre de déplacer un ou plusieurs nénuphars en les faisant glisser. En fait, ils sont sur de l'eau, donc comme ça, ils glissent un petit peu d'une case. Et puis
le nénuphar avec la fleur éventuellement qui est
dessus. Ouais, voilà. Et puis éventuellement ils poussent les autres à condition que ça les fasse pas sortir du plateau de jeu. Et puis enfin, dernière action donc de celui qui a fait la plus grosse enchère, il va désigner le nénuphar sombre du prochain tour. Et en l'occurrence du coup, ce sera donc le nénuphar sur lequel celui qui aura fait la plus faible enchère va devoir miser. Voilà, la règle est pas très compliquée. La maîtrise du jeu, c'est autre chose. Moi ce que j'ai regretté, mais ça c'est intrinsèque, on va dire, à la règle du jeu, c'est que on maîtrise pas toujours, puisqu'en fait, pour enchérir, on a les valeurs de 1 à 9, mais on en a que 3 disponibles à un instant T.
Et donc, mais parfois. Après, t'as les 6 autres, t'en as 3 parmi les 6 autres, après, t'as les 3
ouais,
dernières.
En fait, chaque fois que t'en joues un, tu vas être remplacé par un autre qui arrive aléatoirement. Et
Pas jusqu'au 3.
Si, ça arrive que si la manche dure, effectivement, tu vas plus avoir le choix entre 3, mais plus que 2, parce que petit à petit, t'as déjà joué suffisamment. Le problème, c'est qu'il y a un tour où tu as besoin d'être le plus faible. Tu joues ton plus faible. Mais malheureusement, bah, il n'est pas assez fait par rapport à ce qu'a l'adversaire. Donc je pense qu'il faut aussi, ce que je n'ai jamais fait pendant mes parties de test, j'ai jamais fait l'effort de mémoire pour savoir où j'en étais.
Ouais.
Tu vois, enfin, ce qui pouvait rester à l'adversaire, etc., savoir un petit peu où j'en étais. J'ai peut-être joué un petit peu trop à la légère. Bon, pour autant, c'est un jeu abstrait pour deux joueurs, mais il y a une IA en face qui est d'un niveau correct, en tout cas. Je ne me suis pas assez impliqué dedans pour aller taquiner l'IA en mode... Il n'y a qu'un mode simple et un mode normal, mais déjà le mode simple, je me fais rétamer. Donc, voilà. Mais j'ai trouvé sympa, j'aime beaucoup ce côté asymétrique. Moi, j'aime les jeux asymétriques. Et j'ai trouvé celui-là particulièrement réussi dans cette notion-là. C'est-à-dire, est-ce que je mets la plus grosse enchère et je peux me placer où je veux? Ou bien je mets la plus faible enchère? Oui, je ne me mets pas où je veux, mais je vais pouvoir déplacer des nénuphars et donc influencer comme ça un petit peu les placements et les figures à réaliser.
Ouais, ça c'est quelque chose qui me paraît intéressant. Le déplacement des nénuphars, ça me paraît sympa.
Ouais, c'est pas mal, mais il y a ce côté par contre du hasard des valeurs qu'on peut mettre aux enchères qui m'a un petit peu rebuté pour l'instant. Au niveau réalisation, donc on a déjà écouté la musique. Au niveau graphisme, c'est super, on est dans l'ambiance. Moi, je sais pas. Par contre, j'ai l'impression que c'est pas du développement natif. Je sais pas. Les animations sont assez c'est mou. J'ai l'impression qu'il manque des images quand il y a une animation. Alors, je sais pas si c'est du fait que ça rame ou quand il y a une grenouille qui saute, par exemple, c'est pas. On voit que trois images, quoi. De là d'où elle vient, l'image où elle est en train de sauter et l'image où elle est arrivée, puis terminée. Il n'y a pas. Je sais pas, j'ai trouvé que ça manquait de répondant. Quand j'essaie de lever, par exemple, là, je montre à Olivier, j'essaie de monter mes nénuphars parce que, en fait, je dois voir les valeurs. Malheureusement, elles sont cachées. Alors, ça, c'est rien de plus chiant aussi. On est.
Ouais, bah, c'est le même principe que pour Olympus.
Ah, il faut les lever. Mais c'est nul ce truc. Bah, c'est forcément la même hauteur.
Eh ben non, c'est le même. C'est-à-dire que tu.
Mais fait, je joue contre une IA. L'IA, enfin, je veux dire. Et c'est pas où je me cacher. Moi, je perds un temps fou à lever à chaque fois chacun des trucs. C'est une seconde à chacun. Faut que j'attende que ça se lève. On s'en fout. Ouais, je veux dire, l'IA.
Mais c'est pour la cacher.
Mais quand tu joues à deux, ok, mais pas contre tricher. Une IA. Mais pas contre une IA. Bon, bref. Ouais. Voilà. Après le reste, bon, on fait du glisser-déposer. C'est. Moi, j'ai trouvé que les animations c'était pas très fluide. Voilà, c'est un petit reproche. Mais c'est quand même un jeu agréable, donc un jeu pour deux qui en plus n'est dispo que pour de l'iPad et iPhone. Mm-hmm. Pour 2,39€, voilà. Donc c'est. Je sais pas. C'est. Non, c'est.
Bah, si tu sais pas.
Si je sais pas. Bah, je sais pas vous dire si c'est bien ou pas, si vous allez aimer et il n'y a pas de version live pour vous laisser.
Non, mais ça me paraît plus intéressant que.
Voilà, c'est un jeu.
Blue Lion.
Oui, carrément.
Avec plus de possibilités et.
Oui, carrément.
Alors, je vais dire.
Plus de profondeur.
Ouais, c'est ça.
Plus de richesse de jeu, c'est sûr. Pour 2,39€, je vous recommande plutôt celui-là. Voilà. J'ai pas précisé qu'il n'y a pas de tutoriel. C'est une règle de jeu qui est présentée, mais qui est assez simple.
Comme quoi, tu vois, 1,59€ ou 2,39€, tout est relatif.
Ouais, c'est relatif, bien sûr, bien sûr. Bah, c'est relatif déjà à la profondeur du jeu. Est-ce qu'on va y rejouer souvent ou pas?
Alors, Haru Ichiban, ça veut dire premier orage de printemps. Ouais. Et c'est un morceau de musique qui était joué par un groupe de jeunes japonaises qui s'appelle les Candies en 76 et qui s'est rendu à 360 000 copies.
Tu me la mettras en musique de fond?
Je ne crois pas.
Ah, dommage. Mais je pense pas que ce soit la même que celle qui est dans le jeu.
Mais bon, bah, faut retenir que Haru Ichiban, ça veut dire premier orage de printemps. してみませんか出かけて行きます。
大人になって忘れませんか。もうすぐ春ですね、恋をしてみませんか。雪が溶けて川になって流れてゆきます。つくしの子が恥ずかしめに顔を出します。もうすぐ春ですね、ちょっと気取ってみませんか。別れ話したのは去年のことでしたね。一つ大人になって忘れませんか。もうすぐ春ですね、恋をしてみませんか。もうすぐ春ですね、恋をしてみませんか。
On peut parler timeline maintenant ?
Alors, on va pouvoir parler timeline, toujours par le même développeur que Blue Lion et Haruhi Shibata.
Alors, timeline, c'est un jeu de cartes.
Oui, dont on a parlé à de nombreuses reprises.
Donc, je vais juste passer rapidement. Donc, on a des cartes avec des inventions ou des événements ou des découvertes. Et on va devoir construire une frise chronologique. En disant, voilà, j'ai une invention et je dois dire si, par rapport aux inventions, la placer en fait sur sur la table avant ou après les autres événements qui sont déjà sur la table. C'est hyper simple, ça se joue de 1 à 4 joueurs, il n'y a pas d'IA, bon, c'est normal. Enfin, c'est normal.
Il y a un mode défi, etc.
Oui, enfin, l'IA de toute façon, tu n'as pas besoin parce que c'est en fait, tu te bats contre tes propres connaissances ou par le hasard de ce que tu vas tirer. Il y a trois modes de jeu, un mode solo classique qui permet de placer un maximum de cartes, où il faut placer un maximum de cartes et la partie s'arrête après 5 erreurs. Solo défi où il faut placer un maximum de cartes et la partie s'arrête après 3 minutes. Et un mode multijoueur.
Avec une attaque de score, sur sûrement 3 minutes du coup.
Oui, c'est ça.
Tu fais des scores.
Ouais, c'est ça. Et un multijoueur où y a deux joueurs, tu peux jouer... À deux en mode côte à côte ou face à face, et puis à trois ou quatre joueurs, t'es automatiquement face à face avec chacun de chaque côté jusqu'à deux joueurs. Alors, les plus, c'est joli, c'est comme timeline, c'est joli. Sauf,
j'aime bien le côté un peu steampunk, global, la présentation des menus, tout ça.
L'illustration et.
Non, c'est bien, il y a des petits éclairs, des petits machins, j'aime beaucoup.
Sauf que la police des caractères utilisée est pas très propre. Je crois qu'on a eu la même remarque, c'est que ça bave un peu. Enfin, c'est pas ça liaise un peu. C'est pas.
Bah pour moi, de toute façon, on a trois jeux sortis dans le même mois. Ça a dû être à la fin. Ça a été fait un peu rapidement. Moi, je pense qu'en fait, je l'ai pas testé sur. Il est disponible que sur iPad. Pour moi, les graphismes n'ont pas été optimisés pour iPad. Ouais, c'est flou. J'ai l'impression que j'ai
pas
plus.
Pas dire si c'est flou. C'est
quand c'est
bizarre,
affiché quoi. Le joueur 2 a gagné, là, j'ai l'impression que c'est flou, quoi. Enfin, que j'ai pas mis mes lunettes. Non mais c'est ça, oui, ça bave, c'est pas. Non, mais pour moi c'est du flou, quoi. C'est en fait c'est de l'upscaling.
Bon alors ça c'est quand même joli. Revenons.
Le reste c'est super. Non mais le reste c'est super joli.
On était dans le plus. Là tu peux choisir, tu peux passer en anglais ou tu peux passer en français. Ouais. Ça c'est plutôt pas mal. La gestion du multijoueur est pas mal. Il y a un tutoriel qui casse pas trois pattes à un canard, mais qui a le mérite d'exister. Puis de toute façon c'est timeline, hein, donc.
Ouais, c'est simple.
Un plus, c'est des infos supplémentaires sur certaines cartes. T'as une petite ampoule qui apparaît sur certaines cartes et ça te donne des...
En fait, on est frustré quand elle n'y est pas sur d'autres. On dit « Ah bon, j'aimerais bien ça sur celle-là. Ah bah, je les ai pas. » Bon, Wikipédia est pas loin.
Et puis, le choix du type de carte, invention, découverte, événement, monument, art, littérature et musique. Mais ça, on va y revenir. C'est un faux plus,
exactement.
Mais, c'est surtout, on joue avec la version invention.
Oui, parce que à la base, timeline... Enfin, la première boîte qui est sortie, c'était les inventions. Depuis, ils sont sortis deux nouvelles boîtes déjà, c'est les découvertes et puis récemment les événements. Et puis donc, il y en aura d'autres qui vont suivre dans les prochains mois.
Donc résultat, dans le jeu de base, en fait, t'as tout plein de choses. T'as la musique,
Il y a essentiellement des inventions et quelques cartes un peu tout.
Et en fin de compte, tu voudrais jouer avec la musique, tu pourrais pas. Parce qu'en fait, t'as pas assez de matière. Donc t'as pas les 90 cartes nécessaires pour jouer à ça. Donc c'est un peu... ça laisse sur sa fin, quoi. Les animations sont jolies, mais en fait, quand tu te trompes, alors quand t'es pas en time attack, parce que quand t'as time attack,
oui, quand tu
prends pas le temps,
deux,
de, Bah, en fait, quand tu te trompes, que tu joues en solo et que tu te trompes, il va te placer la carte au bon endroit. Il va quand même te dire, bah, cette carte-là, non, tu l'as mis là, mais en fait, elle va plutôt par là.
Bah, comme tu fais dans le jeu, tu retournes la carte et tu vois bien.
Oui, sauf que là, bah, ça gigote. Ça bouge, ça ouais, branle
puis
un peu.
T'as du mal du coup à lire l'année et puis ça disparaît vite.
Ça. Ouais, c'est ça. Donc ouais. En fin de compte, c'est pas super pertinent en fait. La pendule au bas à droite,
j'ai pas compris. Elle tourne, je sais pas pourquoi, je sais pas comment ça
des
marche.
Des fois oui, des fois non.
Je sais pas ce que c'est.
La bibliothèque, hein, où on peut pas voir toutes les cartes. Donc, voilà.
Ouais, ça c'est un truc à jouer à deux. Quand on joue à deux, on peut le mettre ou bien en mode l'un face à, enfin en face à face, donc du coup c'est découpé, on va dire, sur la longueur, sur la largeur de l'écran. Ou bien on est en côte à côte, dans ces cas-là, l'écran il est splitté sur la hauteur. Et quand c'est splitté sur la hauteur, on peut difficilement voir toutes ces cartes. Il y en a même qui ont un libellé assez long. Par exemple, je sais plus, la déclaration d'indépendance américaine. Et du coup, il y a juste marqué la déclaration de... Et puis c'est tout. Et quand c'est pas son tour de jouer, on peut pas cliquer sur la carte pour la zoomer. On est obligé d'attendre que ce soit son tour pour le faire. C'est truc tout con, mais c'est bête.
Mais attends, tu touches pas l'iPad quand c'est pas ton tour, hein.
Ouais, mais quand t'es côte à côte, justement, une fois on a joué en côte à côte, dans le train, tu joues en côte à côte.
Et bah c'est l'autre qui touche. Et d'abord comment l'iPad il reconnaît ton doigt à toi?
Non mais il sait pas, mais c'est du multitouch, mais c'est pas gênant, tu peux bien juste zoomer sur ta carte quoi pendant que l'autre y joue.
Ah, sur ta carte à toi.
Ouais parce que voilà, ça arrive moins sur quand t'es en mode en face à face, parce que du coup il y a plus de place pour afficher les cartes.
Donc bon, alors finalement c'est un beau portage, mais par exemple c'est un jeu assez simple et je dirais que par rapport à certains autres jeux où par exemple Caius. Bah, c'est compliqué, il a fallu vraiment réfléchir à l'interface, où il y a vraiment un développement au niveau de...
Un graphique qui est complètement refait pour Caius.
Oui, tout à fait. Donc il y a un développement autour du jeu, bah là, bah, t'as pas de développement, quoi. Tu places les cartes à côté, les unes à côté des autres, et puis après, tu complètes avec un graphisme un peu steampunk, et puis ça marche. Donc on n'en attendait pas moins, mais bah, c'est du joli timeline, quoi.
J'ai d'autres reproches, moi.
Oh, non, mais attends.
Ah, pardon.
Non, j'ai dit par contre, ça aurait mérité d'être un peu plus propre et un peu plus.
Pour moi, c'est comme Blue Lion et Arwitch Ivan, je pense qu'il manque.
Trop vite.
Et ouais, ça aurait sorti un peu trop tôt, quoi.
Donc en fait, comme dirait Agus, moins et mieux.
Ouais, malgré tout. Enfin bon.
Non, il faudrait moins et mieux, quoi. Ça, c'est...
Ouais.
Ça coûte combien ce
C'est 2,39. 2,39. Base, donc vous jouez qu'avec les boîtes, les cartes de base.
Et il y a la possibilité d'acheter les deux premières extensions à 0,79 centimes.
Ouais, à l'intérieur de l'application. Donc ça vous fait un total de 3,97 déjà.
Voilà. Et bah moi j'aurais préféré que pour 3,97.
3,99 on va dire.
Ouais. Ou 3,99, il y a toutes les cartes disponibles.
En sachant que.
Que quoi?
Les boîtes vendues dans le commerce comportent 110 cartes. Là, l'extension événement vous propose 88 nouvelles cartes.
Pas mal.
Et l'extension découverte, 96 nouvelles cartes. Pas mal. On se dit, ouais, c'est quand même bien pour 79 centimes. Sauf que, alors moi, je me suis dit, tiens.
C'est bien.
Surtout que pour l'instant, j'ai que la version invention. Je me suis dit, tiens, je vais tester comme ça la boîte que événement, voir si je peux jouer. Donc, quand on lance la partie, on peut choisir de tester que sur les événements. Et là, on me dit, ah bah non, faut 90 cartes. Je dis, putain, mais j'ai acheté, moi, j'ai acheté l'extension, j'ai payé 79 centimes. Je vais pas jouer qu'avec les événements, parce qu'il y a 88 cartes.
T'as qu'à mettre les 3 cartes musique.
Ah ouais. Mais c'est pas normal. Tu te dis, j'ai acheté l'extension événement, je peux même pas jouer qu'avec les événements.
Ouais.
Qu'est-ce que c'est que ça? What the fuck, comme dirait Olivier.
C'est ça.
D'autant plus qu'ensuite, quand je. Bon,
médiantre.
Bah, médiantre, mais bon sang. Après, j'ai mis les événements, et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu la traversée des Alpes par Hannibal.
Oui, bah oui, il a bien traversé les Alpes.
Et oui, il a traversé les Alpes. Pas de problème, je sais quand ça se passe. Ça, hein, c'est avant Jésus-Christ. C'est avant, c'est en
200.
C'est en moins 200. Ouais, c'est avant, c'est bien avant toutes les guerres différentes, des triumvirs et tout ça. Et ben, qu'est-ce qui se passe? Le jeu me dit, ah bah non, tu t'es trompé, ça s'est passé en 218.
Avant Jésus-Christ.
Bah après, là. C'est le jeu, c'est comme ça, il a décidé que, voilà.
Donc tu veux dire que tous les événements sont pas forcément.
C'est-à-dire que le jeu n'a même pas été revu suffisamment et que les dates sont au moins cette date-là erronée. Alors ce que je ne sais pas, c'est que je n'ai pas la version,
Boîte,
version carte. Je ne sais pas si c'est une erreur vraiment de base de la gestion de la version carte ou c'est juste une erreur là. Ils ont juste oublié de mettre le moins. Ça peut arriver, c'est une erreur toute bête. J'espère qu'il y aura une mise à jour qui va me corriger ça.
Donc, toi, cher auditeur, si tu as la version boîte de Timeline, dis-nous si de la même façon Hannibal a traversé à 200 ans avant JC ou 200 ans après JC.
C'est important parce que j'entends plus là.
Donc, bah moi, je suis quand même, c'est quand même un portage qui correspond très très bien à la plateforme. Mais voilà, c'est un peu dommage, quoi. C'est, on rentre dans ce système mercantile où faut vendre des extensions. C'est
normal. C'est un jeu qui s'y prête aux extensions, mais que les extensions soient complètes, qu'on puisse jouer avec les événements complets ou machin, c'est un peu voilà. Après, malgré tout, c'est un jeu que je regrette pas d'avoir acheté parce que
moi non plus.
On joue facilement dans le train, etc. On peut jouer à deux. Très facilement. Je jouerais moins en solo là-dessus, par contre. Les modes défis et tout, c'est peut-être pas la partie la plus intéressante de Timeline. J'étais content de trouver, par contre, les extensions déjà dessus, parce qu'au bout d'un moment, quand même, j'ai que la version invention chez moi en version carte. J'avoue qu'au bout d'un moment, certaines cartes, je les ai mémorisées. Ouais, je n'aurais pas prétention de dire que j'ai encore fait le tour. C'est un peu trop tôt. Mais il y a un certain nombre de cartes, je connais les dates maintenant.
Ouais.
Donc ça fait du bien d'amener un peu du peu de nouveau.
Pas de jeu Android aujourd'hui?
J'ai pas de jeu Android, non, c'est comme ça.
Donc Timeline sur iPad, 3,99€ si vous achetez les deux extensions.
Pour 97. Et ça va coûter du coup bien plus cher avec tout après.
Et ben voilà.
C'est tout ?
Je crois, ouais.
This is the end. Ah non, il m'en restait juste un petit rapide. Take it easy. Ça va, je le mentionne juste. Take it easy. Je le mentionne juste. Take it easy.
Oh, take it easy.
Take it easy. Take it easy. Mais c'est en anglais. Take it easy, c'est un jeu d'optimisation de placement qui se joue normalement de 2 à 4 joueurs en version jeu de société, qui est sorti sur iPad, mais que en version iPad iPhone à 79 centimes et qui n'existe que en mode solo. Donc, ça réduit franchement l'intérêt du jeu. Après, il propose des puzzles mais à résoudre, mais c'est. Enfin, les niveaux sont trop faciles au début. On aimerait tout de suite pouvoir se retrouver au mode difficile, mais non, on est obligé de se farcir tous les niveaux.
Bah oui, sinon c'est trop court.
Ouais, mais du coup, t'arrêtes avant quoi. Tu stops le jeu puis tu passes à autre chose. Voilà, mais je le mentionne quand même parce que c'est un petit jeu que j'aime bien en version
sociale. De l'autre côté, 0,79 centimes, eux, c'est pas des voleurs.
Ah bon, c'est comme ça. Bon, voilà. En version universelle, c'est pas des voleurs.
Voilà.
Voilà, donc maintenant, bravo. Ça y est, on a vraiment fini.
Ok, bon,
Mais avant de se quitter, on va quand même vous rappeler l'adresse du site, hein, puisqu'on vous rappelle qu'à chaque épisode est accompagné de son petit article sur le site, qui vous rappelle tout.
Toutes les références,
les liens.
Du visuel.
Des beaux visuels pour vous aider à visualiser un petit peu.
Puis là, il y a plein de choses, puisqu'il y a beaucoup de matière, donc on va vous renvoyer vers les cartes de Escape, vers les francisations de Mage Knight,
vers toutes les applications qu'on a parlé dans les écrans.
Tout à fait.
Donc le site, c'est podcast.proxy avec un i-jeu avec un x.fr.
Voilà.
N'hésitez pas à mettre vos commentaires,
tout à fait,
nous faire tous vos retours sur ce qu'on a dit, nos erreurs, nous raconter si Hannibal a traversé les Alpes en moins de 118 ou plus de 118.
118, 218. Non, c'est pas ça.
Non, c'est pas ça.
Et puis on compte
sur vous pour sauver le monde.
Oui. iTunes.
Hein, sauvons le monde en 2012, c'est important avec Proxy Jeux. Donc mettez des commentaires, des notes sur iTunes. Alors on vise 100 notes, on aimerait même encore mieux avoir 100 commentaires.
Ouais, c'est ça. Le plus important pour nous, c'est pas les notes, c'est les commentaires. Et puis si vous n'avez pas iTunes chez vous, allez chez votre grand-mère, allez chez votre voisin.
Je pense que votre grand-mère l'a forcément. Ouais.
Ah bah oui. Ah,
forcément.
Forcément.
Parce que forcément.
Non voilà, donc rendez-vous dans 15 jours, d'ici là il y aura au moins deux dossiers, enfin au moins deux autres podcasts, un morceau sur Cannes parce que ça on va l'extraire de ce qu'on a enregistré ce soir et on va vous le mettre à part. On aura aussi l'interview de Martin Wittberg et puis on se retrouve dans 15 jours pour le numéro 24 du podcast Actu de Proxy.
Voilà, d'ici là n'oubliez pas le concours. Parce que dans 15 jours, quand vous entendrez en retard, ce sera trop tard.
Voilà, donc il faut participer, que vous ayez un niveau ou pas. C'est vraiment un chouette concours, alors pas hésiter. Puis d'ici là, jouez bien.
Oui,
tu cherches le chat ?
Toujours, oui.
Il faudrait qu'on fasse un lolcat.
Ouais.